Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 septembre 2006 de 18 à 21h, en différé jeudi 21, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
C'est pas
bon,
lui.
Bon, exceptionnellement ce soir, ça ne sera pas Daniel Amiche. Ami de la résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Comme on n'est pas mouru.
Comme on n'est pas mouru, on continue on à résister.
On a repris le collier. Je salue tous les auditeurs et tristes de France, de Navarre et autres lieux découverts à marée basse.
Du Havre, de Cherbourg. Et même du Mans et de Caen.
Et de
Internet.
Du Québec, Montréal.
Mais ceux que j'ai nommés, nous les verrons.
Du Japon, de Corée, de Thaïlande, de Chine.
Ceux de Normandie.
Canada. Voilà.
Ouais. Ceux de Normandie, nous les verrons bientôt, pas plus tard que le 1er octobre, en chair et en os.
Absolument exact, mon cher Patrick Goffman.
Présent.
Nous nous réjouissons de recevoir ce soir Bruno Maigret. Bonsoir Bruno, vous n'êtes pas encore présent.
Bonsoir. Non, vous voyez, ça va.
Vous êtes venu vous replonger dans une atmosphère plus sympathique que celle du tribunal de Marseille, Aix-en-Provence ?
Bah, je dois dire que c'est incontestablement plus sympathique, mais les tribunaux, je commence à avoir l'habitude. Je suis un peu rodé, j'ai le cuir tanné, car je crois qu'avec mon épouse, nous cumulons le record absolu du nombre de procès pénaux. Sur les 6 années du mandat de Vitreuil, il doit y avoir un procès pénal chaque année. C'est le record absolu. C'est aussi, d'ailleurs, nous avons eu le record absolu des contrôles de la Chambre régionale des comptes à Vitrolles, 3 contrôles en 6 ans, quand la moyenne c'est un contrôle tous les 12 ans, nos prédécesseurs socialistes n'avaient pas eu de contrôle en 15 ans, bref, la persécution judiciaire, je ne suis pas le seul, mais moi je connais.
Vous venez de donner la clé, parce que si vous aviez, au lieu de choisir la droite nationale, vous aviez choisi le Parti socialiste ou la... Comment on peut dire, enfin, l'UMP...
Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, oui.
Soyez tranquille, là. Même le président de la République peut voler sans qu'on vienne l'arrêter à son domicile. Tiens, j'ai vu dans un journal... C'est pas un journal, c'est un lecteur qui m'a envoyé un petit mot dans lequel il parle de Bernat, trait d'union, dette. J'ai trouvé ça plutôt amusant. Donc vous allez nous dire, on va parler de cette affaire, parce que je dois dire que moi je n'y comprends pas grand chose. J'imagine assez mal Bruno Maigret et madame en train de taper dans la caisse, de faire des détournements de fonds.
Vous posez bien la question, Serge, parce que les gros médias nous parlent de détournement de fonds.
Ouais. Oui. Alors on va poser la question. On parlera du procureur Bonhomme.
Absolument.
Bounoum. Vous savez ce que c'est un Bounoum dans le centre de la France, le Bounoum? On va tuer le Bounoum? C'est un cochon. Non. C'est comme ça qu'on appelle le cochon, le jour où on lui fait la fête au cochon. C'est curieux. Et donc on va parler de ça, et puis on va parler de l'Union des Patriotes.
Absolument, c'est important.
Et puis on va parler aussi du livre que vous publiez, qui s'appelle,
alors, je l'ai sur le
l'autre scénario pour la France et l'Europe. Voilà, mais avant, on va faire, pendant que je fais un petit message personnel à Pierre Lance, qui sera dans la deuxième partie, vous pouvez lui dire qu'il est... Oh, bah, si ça l'amuse de venir, il peut venir, mais enfin...
Oh non, il fait chaud,
dit-lui. C'est ça, voilà, il fait chaud. Il ne transporte pas son feu avec lui.
Non, mais c'est pour lui, ici, il fait chaud dans le...
Pierre Lance, le plus loin possible.
Pierre Lance, qui est l'auteur de... Savants maudits et chercheurs exclus, et qui vient de préfacer un livre sur Loïc le Ribot. Donc on parlera de ça avec lui, mais c'est dans la deuxième partie. Dans cette première partie, nous allons commencer par une petite revue de l'actualité. Alors, il faut quand même que je vous annonce quelque chose de nouveau. Nous avons l'intention, mon cher Patrick Goffman, oui, qui est mon bras droit, et avec le Marquis qui est mon bras gauche, mais qui est actuellement en vacances, qui est embêtant. Entrez, Pierre, je vous en prie. C'est embêtant d'avoir son bras gauche à 400 ou 500 km de soi, mais c'est comme ça. Oui, il faut avoir le bras long, c'est ça. Et donc nous avons décidé de changer un petit peu le style de l'émission, d'inviter moins de monde, parce que finalement on donnait la parole à personne à force de donner la parole à trop de monde. Donc la première partie sera consacrée à l'actualité avec un invité, deux au maximum, si j'arrive à tenir parole. Ça revient la première fois. Et la deuxième partie sera consacrée à des sujets... qu'on met dans la deuxième partie d'un journal, c'est-à-dire les dossiers, les faits de société, les médecines douces, qui est un de mes dadas, que n'enfourche pas volontiers Goffman d'ailleurs, les choses bizarres, les ovnis, les revenants, les apparitions...
L'assurance-vie.
Non, l'assurance-vie, ça sera dans la première partie. Alors, donc on a constitué une espèce de petit groupe comme ça de gens qui viendront participer à la première partie de l'émission. On essaie de faire appel à des experts. On commence très fort parce que le premier expert qui viendra, qui est là ce soir, c'est n'est autre que Jean-Pierre...
Rondo.
Quelle horreur, Jean-Pierre. Pourtant, je croyais m'être reposé, mais non, c'est encore pire qu'en partant.
Alors, Rondo, c'est pas un cochon, c'est un poème.
C'est un poème, oui, c'est plus joli quand même que bonhomme. Bon, cela dit, tous les bonhommes ne sont pas des cochons, bien entendu. Je suis sûr qu'on a au moins deux ou trois cotisants qui s'appellent, adhérents qui s'appellent bonhomme, donc il faut quand même prendre des précautions. Alors, Jean-Pierre Rondo, qui est le président de Mégara Finance.
Et le vice-président?
Président de Mégara Finance. Les autres activités étant des activités qui n'ont pas directement à voir avec le sujet de ce soir, et qui vient venir nous expliquer cette histoire bizarroïde de l'assurance vie que vous aviez annoncé il y a bien longtemps.
Et du hold-up que le gouvernement prépare contre elle.
Voilà.
Il faut que les auditeurs dont l'assurance vie est le placement préféré sachent que le gouvernement se prépare à le...
À tenter. Il a reculé.
Il a fait un premier essai raté, mais ces gens-là, quand ils ratent quelque chose, en général, ils recommencent. Alors, l'actualité est intéressante. J'ai découvert, là, en rentrant, que finalement, on trouve des choses dans la presse. Il arrive que les journaux disent la vérité. Même les hommes politiques, par exemple... Même de la Noé, il finit par dire la vérité de temps en temps. Là, il y a un site communautaire de voisinage qui a été créé à Paris. Alors, c'est par quartier, c'est un site internet, bien entendu. Alors, si vous avez perdu votre chat ou si vous voulez louer une chambre de bonne, ou au lieu de coller des petits billets, des petits papiers sur les becs de gaz, vous allez sur le site, et alors... ça annonce les fêtes, ça annonce les manifestations, les choses comme ça. Et vous savez comment ils l'ont appelé, le site ? Peuplade. C'est fabuleux. C'est fabuleux. La vérité jaillit, mais comme un geyser par moment. On sent qu'elle est trop enterrée et pouf, elle sort comme ça. Voilà. Une autre chose qui est intéressante dans l'émergence de la vérité, c'est l'histoire de la grève des cliniques privées. Je lis la presse. Clinique, grève majoritairement suivie. Pas d'impact sur les soins. La grève des soins observée mardi par les cliniques privées pour dénoncer un plan d'économie n'a pas eu d'impact sur les soins. Alors, c'est intéressant parce que moi j'ai trouvé l'économie. Il faut supprimer les cliniques privées puisque quand elles ne fonctionnent pas, ça ne change rien.
On s'en rend pas compte. Hein.
Donc voilà, les économies facilement.
On peut dire la même chose des médecins étrangers non européens qui nous ont fait une grève le 15 août parce qu'ils n'acceptent plus les termes du contrat qu'ils ont signé.
Pardon.
Et dont l'impact n'a pas été beaucoup plus bouleversant malgré le choix de la date.
Alors, il y a autre chose, c'est Monsieur Sarkozy.
Ah.
Il y a un très très bon dessin dans le Canard Enchaîné où c'est Condoleezza Rice qui est dans le bureau de Bush et Bush lui dit alors qu'est-ce qu'il veut, il veut une photo speakeasy Sarkozy. Ah oui, et donc il veut une photo avec moi. Oui, j'ai remarqué que les Français aiment bien être photographiés avec moi, les Américains moins. Voilà. Voilà, alors donc Sarkozy avait déclaré à l'Express, à Denis Jean Barre de l'Express, le 17 novembre 2005, c'est pas si vieux que ça, j'ajoute que l'action policière que j'ai engagée dans les quartiers, alors les quartiers, qu'est-ce que c'est que les quartiers ? Bon, enfin, on le sait, mais pourquoi pas dire les territoires occupés, les cités de la peur et de la violence. Non, ils appellent ça les quartiers. Les jeunes des quartiers, ça veut dire les immigrés dans la ceinture parisienne. C'est ça que ça veut dire. Faut traduire les choses. Bon.
Le Monde titre bien sur le 9-3. Alors si le Monde 9-3. En est titré sur le 9-3, il vaut mieux se mettre au verlan en vitesse. Hein.
Alors, j'ajoute que l'action policière que j'ai engagée dans les quartiers ne s'arrêtera pas avec la fin des violences urbaines. Qui sont d'ailleurs pas des violences urbaines, mais des manifestations de guérilla raciale. La police va rester et nous allons éradiquer les trafics. Des affaires vont sortir dans les prochaines semaines. La vraie police de proximité, c'est que désormais, le tiers des forces mobiles, au lieu d'être consacré au maintien de l'ordre, s'installe durablement dans les quartiers pour la sécurité quotidienne. Mais ce ne sera pas une police de proximité pour dire bonjour à des commerçants, qui par ailleurs ont déserté ces quartiers. Évidemment, il n'y a plus aucun commerçant, pourquoi leur dire bonjour ? Ce sera pour interpeller, pour protéger et pour punir, chaque fois que ce sera nécessaire. La police va arriver dans les quartiers à 17h, et à partir de 4h du matin, parce que ce sont les horaires des voyous, qui trafiquent de la drogue ou volent des voitures. Ça, c'est de la vraie prévention et de la protection. Je rappelle que c'est Sarkozy qui parle à Denis Jean Barre de l'Express. Bon, il continue, blablabla, et je vais faire ci, et je vais faire ça, et je vais tout ça. Alors, mon vieux, ça, c'était le 17 novembre 2005.
Là,
en ce moment, hein ?
Il y a près d'un an.
Près d'un an, oui, il y a 10 mois. Quoi.
Est-ce que je peux interjeter le commentaire de Jean-Christophe Lagarde, maire UDF de Drancy ? Une courte citation, j'ouvre les guillemets. Je refuse d'avoir des CRS dans ma commune depuis mars. On ne veut plus les voir. Alors qu'ils sont censés patrouiller dans les quartiers, ils ne font que du contrôle routier. Ils ridiculisent la République quand ils arrêtent les citoyens qui n'ont rien fait et ils n'agissent pas contre les délinquants. Bon. Point, fermez les guillemets.
Ça, je dois dire qu'il y a des années que je dis, habitant à côté de Barbès-Rochechouart, que à Barbès, sous le métro aérien, on voit des flics qui verbalisent les automobilistes sans ceinture, et juste derrière, à un mètre derrière, il y a les dealers qui fourquent de la cam. Et quand on dit aux flics, mais pourquoi vous arrêtez pas cela plutôt que de m'emmerder parce que j'ai oublié de boucler ma ceinture ? Ah, monsieur, on a des ordres. Alors, évidemment, ils obéissent, les pauvres. Alors. Mais, alors, cette déclaration de Nicolas Sarkozy, à l'époque, je voudrais ajouter qu'elle avait provoqué quelques réactions. Et pas du tout dans le sens qu'on pourrait imaginer. Par exemple, Bernard Kouchner avait dit, lui, je crois que l'on ne peut nier la dimension raciale qui s'est manifestée durant cette crise. C'était quand même assez clair. Mais Sarkozy allait régler tout ça en deux coups les gros avec, en mettant de la police de proximité qui ne disait pas bonjour aux commerçants. Ça, c'était donc, je le rappelle, 2005. Le 17 novembre 2005. Alors, la nuit dernière, c'est-à-dire dix mois après, on apprend que deux CRS qui ne sont pas des SS, ou alors il faudra quand même qu'ils prennent des leçons, se sont fait torcher, mais vraiment, alors de la belle manière, par des jeunes des quartiers, comme on dit, au moment où ils faisaient de la police de proximité en automobile à pétrole. Et là, curieusement, on n'a pas entendu... j'ai pas entendu que Sarkozy avait dit qu'il allait y aller d'un coup de karcher. Hein.
Il y va ce soir, je crois.
Oui. Mais il va y aller avec combien de flics? Ça me rappelle le dessin, je sais plus qui avait fait ce dessin fantastique. On voyait Mitterrand qui était enfoncé dans sa DS président, enfin dans sa voiture présidentielle, entouré par une nuée de motards, et tout au fond on voyait des tours d'une cité probablement, et Mitterrand disait: mais je ne comprends pas les Français, je ne vois pas pourquoi ils parlent tout le temps de la sécurité, cet endroit est parfaitement calme.
On apprend aussi, Serge, que Mme Guedj, ancien ministre, que Mme Fraisse, députée, si je ne m'abuse, de la Seine-Saint-Denis, ont été agressées violemment. Le préfet du 9-3, M. Cordel...
Alors on va en parler de ça, oui, on va en parler, parce que...
Je cite les chiffres de la délinquance, parce que ce sont les résultats des propos, des rodomontades de M. Sarkozy dont vous parlez. Quelques chiffres seulement. Les violences contre les personnes dans le 93, la Seine-Saint-Denis en question, ont progressé de plus de 14%. Les vols avec violence de plus de 22%. Les vols avec arme blanche de 16%. Et surtout, la part des mineurs, c'est-à-dire les mineurs, c'est les moins de 18 ans, il faut le rappeler quand même, dans la délinquance sur la voie publique, est passée de 44% à 47%. Mmh. Comment ces jeunes, le préfet Cordet, met en cause directement et nommément le tribunal de Bobigny? Comment les jeunes l'appellent-ils, les juges de Bobigny, vous le savez? Les Pères Noël.
Le Père Noël.
D'où peut-être le sentiment d'impunité et les violences gratuites qui se développent de plus en plus.
Mais je répète qu'à propos du tribunal de Bobigny, il faut lire le fabuleux bouquin de Maud Marin.
Bien sûr,
dans lequel elle raconte cette scène extraordinaire. Elle est avocate, ça lui a valu d'ailleurs sa place au barreau. Elle est l'avocate commis d'office d'un délinquant, d'un jeune des quartiers, et elle arrive devant le juge le lundi matin, le lendemain du jour où Le Pen a fait 17% ou 16% au premier tour. Et là, elle tombe sur le voyou qui, la fois précédente, avait injurié la juge d'instruction en la traitant de tous les noms, manifestant une indifférence totale aux règles élémentaires de la courtoisie et de la politesse, puis surtout aux éventuelles conséquences que pouvait avoir son attitude, donc sachant très bien que ça n'aurait aucune conséquence. Et là, elle tombe sur un client qui est totalement décomposé, qui est terrorisé littéralement, et qui dit « Mais c'est pas vrai, Le Pen il va passer !» Et voilà, c'est tout. Il suffisait de ça pour leur faire peur.
J'ai un autre témoignage à faire. C'est que j'étais, vous le savez, maire adjoint en Seine-Saint-Denis et maire adjoint aux affaires sociales.
Jean-Pierre Rondeau.
Et j'ai dénoncé deux ou trois reprises de vrais trafics d'enfants. De vrais trafics d'enfants. Uh-huh. Un juge qui est assez connu en matière de protection de l'enfance et aussi pour des mœurs un peu particulières. Eh bien, ça n'a jamais abouti. Et c'était des trafics évidents. Et je le faisais en tant que maire adjoint, pas en tant que particulier.
Alors donc, dix mois après les promesses de Sarkozy, on lit ça. Un officier et son chauffeur étaient mardi en patrouille motorisée. Je voudrais faire une petite parenthèse. Les journalistes ne sont pas absolument obligés d'écrire comme des flics. Qu'est-ce que ça veut dire en patrouille motorisée dans J'étais le cadre dans de la véhicule. Lutte contre les violences urbaines quand leur véhicule a été la cible des projectiles lancés par une vingtaine de jeunes apparemment surgis d'un fourré. Ils se sont matérialisés devant la voiture dans la cité des Tarterets. Les deux policiers ont été blessés. L'officier souffre notamment d'une plaie à la tête et d'un hématome à l'œil. Les deux hommes ont été soignés dans un hôpital d'Evry.
Il semblerait en fin d'après-midi que ça soit bien plus grave que...
Oui, absolument. Alors, leur véhicule a été sérieusement endommagé. Et une enquête est en cours pour identifier les agresseurs, dit-on au ministère de l'Intérieur. Chante Fifi. Cet incident est intervenu au soir de la publication par le quotidien Le Monde d'extrait d'une note alarmante, hein, du préfet de Seine-Saint-Denis, pas alarmiste quand même, sur la situation dans cet autre département de la région parisienne. Près d'un an après les violences urbaines qui ont marqué l'automne 2005, Jean-François Cordet, le préfet, affirme dans cette note adressée au ministre de l'Intérieur
et datée du 13 juin
que la Seine-Saint-Denis connaît une recrudescence de la délinquance peu connue jusqu'ici depuis de nombreuses années. Selon Le Monde, il se plaint aussi d'un nombre insuffisant de policiers et met en cause les modes d'intervention des compagnies républicaines de CRS, de sécurité. Il reste sur notre territoire des points difficiles. Cela montre bien qu'il ne faut pas baisser la garde et intensifier l'action qui est la nôtre. Partout où c'est nécessaire, partout sur notre territoire, nous devons veiller à ce que les moyens soient fournis, a dit Dominique de Villepin. Alors, ça c'est extraordinaire, parce que je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qu'est un préfet. Un préfet, c'est un serviteur de la République, il est aux ordres du pouvoir. Hein. Pour qu'un préfet atteigne le degré de... De colère, de rage, d'impuissance qui le conduit à faire une note au ministère en disant mais écoutez, arrêtez de vous tourner des films, on est en guerre, on est en guerre sociale, en guerre civile, en guerre raciale, il faut que ça atteigne des degrés invraisemblables. Et là on a de Villepin qui arrive avec son violon. Non, il a posé le violon parce que vous savez que Villepin, il fait des... C'est lui, comment il s'appelle, le violoniste...
C'est pas un... Il joue pas du luth, plutôt?
Non, le violon... Non, mais non, vous savez bien, le violoniste, qui a des grands cheveux blancs, là, qui joue des... Qui fait des solos de classiques, enfin, classiques sirop.
Rieux, non?
Rieux, ouais. Rieux, moi, je suis sûr que Villepin et Rieux, c'est la même personne. Rieux, il fait... C'est Villepin la nuit, pas le soir, il se fait un peu de gratte. Donc il a planqué son violon et il a trouvé la solution. Lui, Sarkozy est incapable d'en mettre l'ordre au bout de 10 mois. Et lui, il a trouvé la solution, il dit, il reste sur notre territoire des points difficiles. Et ça montre bien qu'il ne faut pas baisser la garde. C'est-à-dire que s'il baisse plus la garde que maintenant, il est obligé de descendre son pantalon sur ses chevilles. Et intensifier l'action qui est la nôtre. Oui, ça effectivement, il peut difficilement faire moins. Partout où c'est nécessaire. Partout sur notre territoire, autrement dit, c'est nécessaire partout, nous devons veiller à ce que les moyens nécessaires soient fournis. Bravo, monsieur. C'est pour ça qu'on a un ministre d'un premier ministre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller à ce que les moyens nécessaires soient fournis.
Le point difficile.
Mais comment faire? Eh bien, il faut prendre des dispositions pour que ce soit fait.
Ce qui est amusant, c'est qu'il a parlé avant Sarkozy en matière de sécurité.
Et alors, il dit, ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, nous serons amenés, d'ailleurs écrit le journaliste, qui continue à écrire comme un rapport de police, nous serons amenés à prendre des dispositions nécessaires, c'est toujours la disposition nécessaire, en liaison étroite avec le préfet.
Hein? Le point difficile, voilà. Enfin, ce que monsieur De Villepin, enfin, qui s'appelle Galouzo,
ça l'amuse de mettre des particules dans son nom, on fout.
Bon, c'est quand même le père de Marie De Villepin qui représente Givenchy partout en ce moment. Ce qu'il appelle un point difficile, c'est quand même 1,5 million d'habitants, nous rappelle monsieur Cordet, préfet du 93, dont 2/3 sont étrangers ou d'origine étrangère. 1,5 million d'habitants, et ça n'est qu'une des nombreuses zones difficiles en France. On a plus de 800 cités de non-droit, d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur. Voilà, il appelle ça un point, ça fait quand même un gros point, il me semble.
Je vais être extrêmement grossier, mais la fille, c'est Givenchy, et le père, c'est Givenchy. Bon.
Je l'avais faite avec délicatesse, en disant qu'elle représentait Givenchy partout, et puis voilà, vous assommez.
Bah écoutez, mais moi, je suis un primate.
Nos auditeurs.
Un primate. Qu'on n'ait pas compris, c'est pas vrai.
L'atmosphère devient irrespirable au gymnase de Cachan, nous dit la presse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais que fait la LICRA? Enfin, écoutez, c'est incroyable des propos pareils. Là, moi, je serais la LICRA. Là, je porte plainte.
Vous savez que le Parisien Dimanche est allé demander à une pharmacienne d'Abidjan ce qu'elle en pensait, oui, là, de ses squatters. Et elle a dit, mais s'ils n'ont pas de papier, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à rentrer et ils vivront de la solidarité africaine comme d'habitude.
Voilà. Alors, des incidents ont éclaté hier midi entre policiers et plusieurs occupants ex-squatteurs hébergés dans un bâtiment public. Dans le bâtiment public. Bilan dressé par les pompiers. 7 blessés légers, dont un policier, tous transportés à l'hôpital. À l'origine des échauffourées, un contrôle effectué à proximité du gymnase. Alors là, écoutez bien la suite, parce que ça vaut mille. Quatre policiers affirment avoir surpris, ouvrez les guillemets, un homme qui urinait sur la voie publique. Fermez les guillemets, point. Il faut quatre flics maintenant pour un hebdu sur la VP. Quand j'étais gamin, il y avait un type qui arrivait à bicyclette avec sa cape, il vous bottait le cul et il vous disait, si tu veux pisser, tu vas pisser chez toi, petit merdeux. Maintenant, il faut quatre policiers et ça déchaîne des émeutes, où il y a sept blessés transportés à l'hôpital. Alors qu'il contrôlait les papiers de cet Africain muni d'un titre de séjour en règle, mais il dit, j'ai le droit de pisser dans la rue, j'ai un titre de séjour. Mais oui, mais c'est pas un titre de droit de pisser, ça fait rien. Tu vois. Les forces de l'ordre auraient été atteintes par des cailloux. Auraient été atteintes.
On sait pas.
Auraient. Ouais. Là, on prend des précautions. Par des cailloux jetés depuis le gymnase. Il y avait des cailloux dans le gymnase? Obligeant une vingtaine de leurs collègues postés alentour à intervenir. Voilà. Un mec qui pisse contre un mur, 25 policiers, 7 blessés, transport à l'hôpital, intervention des pompiers et tout. Et la suite est encore plus belle. Le journal nous dit, cette version est battue en brèche. battue en brèche. Tiens, je vais mettre battu en brèche aujourd'hui.
Brèche.
C'est un mot qui me plaît bien, je vais le mettre.
Brèche passons.
Cette version est battue en brèche. Alors écoutez bien, par les occupants du gymnase et leur soutien, parmi lesquels Jamel Debbouze et Mathieu Kassovitz, accourus après les incidents. Hein. Donc le mec, il arrive donc une demi-heure après, une heure après au minimum, parce que le temps de venir du 16e, où ils ont leur loft à 500 millions d'euros.
Saint-Germain-des-Prés hein, pour Jamel Trois-Bouze.
Et alors donc, ils arrivent. Oh, qu'est-ce que c'est passé? C'est même pas vrai. Mais vous avez vu quelque chose? Oh non, mais ils m'ont raconté. Alors évidemment, ça concorde. Hein. Donc voilà, présent sur les lieux, Malika Zediri, conseillère régionale communiste, assure que la vérité, c'est que les policiers font du harcèlement depuis plusieurs jours. L'élu dit être intervenu avec plusieurs femmes du gymnase pour protester contre un contrôle brutal. Oh. Elles auraient reçu des gaz lacrymogènes et des coups de matraque. Je compte aller chez le médecin, faire constater mes blessures, puis porter plainte avec les autres femmes touchées. A dit Madame Zediri. Une plainte pour outrage vise également l'homme arrêté en train d'uriner. Écoutez, on vit dans un pays de fous furieux, il faut bien reconnaître quand même que non.
Rappelons quand même que tous ces gens-là sont illégalement sur le territoire, mais on rêve. On cauchemarde.
Vous avez un type de séjour. Il a confondu un laissé-passer avec un laissé-pisser.
Oui, c'est ça, exactement, voilà.
Et Josiane Balasco, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Parce qu'elle est, elle est fréquemment sur les lieux.
Je pense qu'elle était rentrée chez elle parce qu'elle avait une petite envie de faire pipi. Non, mais enfin, on croit rêver. Franchement, quatre flics pour arrêter un type en train de faire pipi contre un mur, obligés d'intervenir, de faire intervenir 20 autres flics pour arrêter des gens qui jettent des cailloux depuis un gymnase dans lequel ils n'ont strictement rien à foutre. Voilà. Bon, bah écoutez...
On peut rappeler aussi qu'ils ne seraient pas dans ce gymnase s'ils avaient accepté les offres extrêmement généreuses de la mairie socialiste. Ouais. Laquelle mairie socialiste a demandé l'intervention de la police et en ajoutant qu'elle aimerait bien que cette demande ne s'ébruite à point.
Ah bon.
Ça le vaut plus.
L'absence de Jean Ferré n'a pas fait disparaître l'imparfait du subjonctif de ces locaux et je m'en félicite. Vous vous souvenez que quand il y a une dizaine d'années la carte vitale a été lancée, le ministre, on avait dit, les mauvais esprits dans notre genre avaient dit, de toute façon il va y avoir des fausses cartes. Mais non, toutes les précautions sont prises, nous avait-on répondu. Et alors moyennant quoi, 10 ans plus tard, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a présenté mardi 19 novembre la nouvelle carte vitale qui doit remplacer la carte actuelle dès le mois de novembre 2006 et qui est naturellement...
Encore plus sûre.
Encore plus sûre. Voilà. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'est... Pourquoi ? Comment ça se rassure ?
Elle a plus blanc.
Comment ça se rassure ? Ça se rassure parce qu'il y aura la photographie. Bon sang, mais c'est bien sûr. On n'avait pas pensé à mettre la photo sur une carte d'identité. Et ben voilà, c'est ça le truc. Retire tes Ray-Ban, mais j'ai pas de Ray-Ban, voilà. Bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Maintenant, on va venir... Oui, on va peut-être oublier ce qui se passe en Hongrie.
Oh, les socialistes hongrois sont en difficulté, on ne va pas s'acharner.
C'est-à-dire qu'on croit que c'est l'extrême droite, puis en fait, c'est probablement pas ça. Vous avez remarqué qu'on nous dit tout de suite que c'était l'extrême droite. Hein, voilà. Bien, ah, ben, le marquis est au téléphone. Vous permettez, messieurs, qu'on lui donne la parole, chausser les...
Il a distrait quelques minutes de ses vacances pour nous distraire. Du moins, j'espère.
Allô ? Allô, allô, m'entendez-vous ?
Je vous entends. Bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir, Marquis. Je vais fort bien, et vous-même ?
Eh ben, je vais bien. Je vous ai appelé un tout petit peu plus tôt que je prévoyais, parce qu'il y a un orage qui arrive. Alors, ah. Avant que tout foire, autant...
Alors, n'oubliez pas d'éteindre votre portable.
Oui, et mon micro-ondes, et parce que le dernier m'a pété au nez avec le dernier orage. Vous voyez, j'ai des aventures intéressantes.
Il ne faut pas avoir de micro-ondes. Vous savez que c'est l'appareil le plus dangereux qui se met sur le marché à l'heure actuelle.
Bien sûr, bah oui, mais ça, ça relève de l'attentat quand il y a ça dans une maison.
Le marquis d'Olmeta nous appelle de Savoie, si je ne suis pas trop indiscret.
De Savoie suave.
Oui, suave. J'en profite, cher Patrick, pour te dire que je ne suis pas en vacances, tu t'en doutes bien, mais je suis comme toujours en séminaire de réflexion.
Bon, si je peux pas vous diffamer un peu de temps en temps, comment ferais-je rire nos auditeurs?
Je te salue et j'en profite pour te dire bravo. Tout le monde le sait que tu as fait le dernier numéro du journal tout seul. C'est absolument remarquable, on se demande ce que le patron et moi on vient faire de temps en temps.
Ouais, c'est vrai, absolument. Moi je remarque une chose en tout cas, c'est que le marquis tutoie Goffman qui n'est qu'un roturier, alors que Goffman vous soit le marquis. Et là ça marque que quand même le libre journal, c'est un des derniers lieux de la tradition aristocratique.
C'est surtout une question de métier, parce que le marquis ne s'en vante pas, mais c'est mon apprenti au bouclage, c'est mon apprenti correcteur. Je suis son prote, en plus d'être son pote.
Touche pas à mon prote. Quelle est la vie mondaine en Savoie en ce moment?
La vie mondaine en Savoie se résume dans tous les petits villages charmants, en travaux gigantesques. Il y a un vent de folie dans tous ces petits pays, ils veulent faire de leur village des Disneyland. Alors, il y a des caterpillars dans tous les coins, on abat des sapins dans tous les coins, on distribue des permis de conduire à tout le monde, après on s'aperçoit qu'il n'y a plus assez d'eau pour alimenter les somptueux chalets où il y a 5 salles de bain. On est dans une folie furieuse, là, vraiment.
Ça va pas mieux en province que...
Oui, donc à Paris. Non.
Est-ce que vous avez beaucoup de ronds-points?
Oui. Eh bien, jusqu'à maintenant, il y en avait 2, mais je crois qu'il y en a encore 3 ou 4 en préparation sur la route qui va mener à Morzine. Il faut beaucoup contourner.
Parce que mon excellent camarade Nicolas Bonal, qui a écrit un livre compliqué mais intéressant, qui s'appelle « Des territoires protocolaires », a dit des choses assez définitives sur les ronds-points. Il a une chose qu'il n'a pas dite, c'est quand même l'utilité principale du rond-point, c'est d'enrichir les élus locaux.
Ah bah écoutez, moi je ne veux pas avoir d'histoire avec les gens déjà qui de toute façon ne peuvent pas capter Radio Courtoisie, mais j'ai bien le sentiment quand je vois ce village que je connais depuis 51 ans, qu'il est depuis un certain temps aux mains d'un système mafieux.
Attention, ils peuvent capter Radio Courtoisie sur radiocourtoisie.com.
D'accord, alors je dis bien fort que j'ai le sentiment que ce petit village est géré par un système mafieux.
Bon, eh bien voilà. Donc, orange ou pamplemousse pour vous?
Ni l'un ni l'autre, j'ai pas une passion pour les pépins.
Quand nous revenez-vous?
Eh bien, je pense être à Paris à la fin de la semaine prochaine.
Bon, alors...
Je suis là mercredi prochain, je vous rejoins si vous voulez bien de moi.
Ah, bah, et commandons.
Et commandons.
Vous nous manquez déjà.
Ça fait plaisir d'entendre ça.
C'est très gentil d'avoir appelé, mais j'espérais quand même que la vie savoyarde serait un peu plus jet-set, non? Comme on dit maintenant.
Non. Bah, vous savez, là, c'est la fin de la saison, il se passe plus rien du tout.
Il n'y a même plus de neige, je suis sûr.
Ah non, ça, il n'y a plus de neige. Voilà, il a bien failli y en avoir il y a 2-3 jours, parce que... On passe de 3 degrés à 25 avec une facilité déconcertante en ce moment. C'est très perturbé aussi.
Eh bien, n'oubliez pas votre cache-colle.
Voilà. Je salue Victoria parce que pris par le mouvement, je ne l'ai pas fait en arrivant. Là, c'est pas bien.
Bonjour, cher Marquis.
Comment allez-vous?
Elle méliflue.
Elle est toujours la voix méliflue.
Ben voilà.
Oh, la barbe.
La barbe. Non, mais pas la barbe.
Rasé
Marquis,
très
à très bientôt.
À très bientôt.
Merci de votre appel.
Émission. Au revoir.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Voilà, alors maintenant, passons aux choses plus sérieuses. Je me tourne vers Bruno Maigret qui nous a fait la gentillesse de venir au déboté, parce que moi je le croyais entre les mains de la maréchaussée à Marseille-Aix-en-Provence, mais non, il était dans
j'ai pu me libérer quand même, oui.
Alors, Bruno, si vous voulez, on va d'abord tirer cette histoire au clair. C'est-à-dire qu'on va vous donner la parole, parce que... Qu'est-ce que se passe-t-il? Ah, excusez-moi. Alors, il y a un nouvel appel, donc je ne pense que... Allô.
Allô, oui, c'est Bernard-Anthony.
Ah, Bernard, comment allez-vous, cher ami?
Eh bien, cher Serge de Beckett, je vais très bien. Et je suis content de vous entendre.
Je crois que vous nous appelez pour nous annoncer une manifestation.
Oui. Alors, si vous le permettez, Serge, vraiment, un grand merci de me permettre cela, parce que ça me permet de, très rapidement de dire ceci. Face aux événements qui sont, je crois, historiques, donc autour des déclarations du Saint-Père, naturellement, Chrétienté Solidarité, la GRIF, d'autres associations réagissent en faveur de ces propos de Benoît XVI, qui sont des propos d'ailleurs admirables sur le plan intellectuel, philosophique. Nous réagissons, et j'ai un peu fait courir partout les questions qu'il faudrait poser au docteur Boubaker, qui se moque vraiment du monde, lorsqu'il nous parle d'Averroès, lorsqu'il nous parle du Coran dans lequel il n'y aurait que des propos de paix, mais tout ça nous en avons traité abondamment. En tout cas, nous avons envoyé partout les questions qu'il faudrait lui poser, donc pour voir s'il y a vraiment une réciprocité entre la façon dont on traite les musulmans dans les pays qui furent chrétiens et qui le sont encore en partie, et la façon dont on traite les chrétiens dans les pays musulmans. Ces chrétiens-là, nous pensons à eux. C'est le rôle de Chrétienté et de Solidarité. Nous pensons à eux parce qu'ils sont dans une très mauvaise situation. Et voilà pourquoi nous avons annoncé une veillée de prière et de solidarité sur le parvis de Notre-Dame demain à 19h. Mais, et c'est là que je demande aux auditeurs de m'écouter, mais hélas, on nous fait savoir qu'on ne veut pas de nous sur le parvis de Notre-Dame. Alors, nous sommes très très respectueux, nous venons de négocier, car nous ne voulons pas créer d'incident.
Si vous permettez, Bernard, qui ne veut pas de nous?
Eh bien, c'est le recteur de Notre-Dame. Je pense que le recteur de Notre-Dame...
Notre-Dame de Paris, bien sûr.
...a porté plainte contre la racaille qu'il a lynchée à l'occasion des gays qui sont rentrés dans Notre-Dame. Mais nous, Chrétienté Solidarité, le recteur de Notre-Dame ne nous autorise pas à faire une veillée de prière devant Notre-Dame.
Mais il ne peut pas vous interdire d'entrer dans Notre-Dame, si c'est ça.
Pardon ?
Je ne peux pas vous interdire d'entrer dans Notre-Dame.
Non, mais nous voulons donner de la solennité à cette prière. Nous devons prendre la parole avec une sonorisation. Donc je ne veux pas que cela tourne à l'échauffourée, parce que je sais très bien comment on exploiterait ensuite cela. Inutile de dire, les auditeurs me comprennent, la tristesse que j'éprouvais même, pourquoi pas le dire, la rage au cœur, parce qu'enfin nous sommes toujours des parias, hein, mais il est vrai que quand on entend face au docteur Boubaker, Monseigneur Santier de Vendée, hein, qui donc lui dit n'importe quoi avec un mélange incroyable de lâcheté et d'ignorance, je suis stupéfait. Nous voulions, avec nos amis libanais qui seront là, des amis coptes et d'autres encore, faire cette veillée de prière en chrétien. Alors en chrétien, nous ne voulons pas faire des incidents. Hein, nous pourrions très bien être à l'intérieur de Notre-Dame. Non, nous ne voulons pas qu'on puisse dire. Nous rangeons devant cette décision que nous considérons pour le moins comme inamical, mais nous allons être au cœur de Paris, parce qu'après tout, nous avons négocié cela, nous allons nous rassembler sur le parvis de Notre-Dame autour de la statue de Charles IX. Voilà. Alors, les auditeurs qui vous entendent, entrent à partir de 19h, je les convie à être sur le parvis de Notre-Dame à la statue de Charles IX, et ensuite la veillée de prière est déplacée à la fontaine Saint-Michel.
De toute façon, on peut prier Saint-Charlemagne.
Je crois que c'est le moment de prier Saint-Charlemagne. Je crois que nous allons devoir, mais il faudrait pour cela que s'élève davantage d'énergie dans ce qui demeure de chrétienté. Je pense que la spiritualité la plus adaptée à notre époque, c'est celle de Charlemagne. Et voilà pourquoi je demande demain... Alors évidemment, je le dis tout de suite, la veillée va prendre un tour très différent. Hein, nous serons à la fontaine Saint-Michel pour prier, certes, pour chanter le Christus Vincit, mais pour dire aussi combien nous en avons assez de la submersion dans laquelle on veut nous engloutir, parce qu'enfin tout de même, que nous entendons est hallucinant. C'est hallucinant. Dieu merci, il y a un pape qui dit certaines choses. Bon, on sait très bien qu'il ne jette pas de l'huile sur le feu, mais qu'il a maintenant un sens bien fondé du dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, c'est pas du ral locum. J'ai écrit pour ma part ce livre « L'islam sans complaisance », mais ce qui est absolument incroyable, c'est que finalement, l'islam ne tolère de nous que la complaisance, que la dimitude. Bien non, nous n'acceptons pas que les chrétiens soient même dans le monde entier réduits en dimitude. Curieux sens du dialogue, que ce sens qui serait à sens unique. Voilà ce que nous allons dire calmement, et nous allons prier pour tous ces chrétiens qui sont aujourd'hui en Égypte persécutés, relégués, massacrés quelquefois, au Soudan, au Liban, au Pakistan, un peu partout. Hein. Nous allons demander au docteur Boubaker. Donc que fait-il pour que les choses changent en Arabie Saoudite, pour que l'on puisse, que les chrétiens puissent avoir au moins quelques chapelles? Que fait-il pour que un peu partout dans les pays d'islam, il y ait égalité de droits des non-musulmans? Parce que je ne parle pas seulement des chrétiens, je parle des non-musulmans, pour qu'il y ait égalité de droits comme ils l'ont chez nous. Vous voyez, mais je ne vais pas aborder cela trop sur le front ce soir, perturber votre émission. Merci en tout cas de me permettre de dire aux auditeurs de Radio Courtoisie qui seront nombreux demain, nous allons être des centaines, des milliers j'espère, ça serait formidable.
Bernard.
En tout cas, nous allons être très nombreux. Ceux qui veulent nous retrouvent à 19h parce qu'il y a des gens que nous ne pouvons pas avertir, tout le monde n'écoute pas Radio Courtoisie, et de là... Bon,
c'est un tort d'ailleurs, mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez...
Oui, Bernard, soyez plus précis s'il vous plaît, vous avez dit 19h sur le parvis de Notre-Dame, et la fontaine Saint-Michel à quelle heure alors?
Oui, écoutez, dès 19h15... 19h30, bon voilà, le temps que l'opération s'effectue, nous serons à la fontaine Saint-Michel au plus tard à 19h30, le temps d'avoir regroupé les gens qui venaient et de leur dire la veillée commencera à la fontaine Saint-Michel à 19h30.
Et nous chanterons Sacré Charlevagne, bien entendu. Merci Bernard, à demain.
Merci Serge, et à demain pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui le veulent bien.
Vous me permettez, Serge, de rebondir sur le propos de Bernard à propos du discours du pape.
Brièvement, parce que...
Oui, très brièvement, et j'en demande pardon à Bruno Maigret, mais c'est le moment ou jamais. Nos auditeurs, tous les Français, sont abasourdis depuis plus d'une semaine maintenant des commentaires délirants et contre-informatifs, désinformatifs sur le discours de Ratisbonne de Benoît XVI. Je veux simplement dire que le Libre Journal, pour sa part, ne va pas ajouter à ces commentaires, parce que nous ne sommes pas des énergumènes, que nous allons simplement, dans le numéro 387 en préparation, publier ce discours et mettre donc le dossier sous les yeux des lecteurs qui se feront leur propre opinion. On peut commander ce numéro 387 dès maintenant contre un carnet de timbre à SDB 4 place France Lys 75010 Paris.
Et j'ajoute que il faut le lire ce discours d'abord parce qu'il est extraordinaire, il est d'un intérêt vraiment théologique et politique exceptionnel. Mais c'est pas du tout sur le sujet de l'islam. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que on a la preuve que les gens qui en ont parlé ne l'ont pas lu. Il n'y a pas un seul de ces types qui l'a lu, pour des raisons d'ailleurs matérielles évidentes, c'est que c'est absolument impossible de traduire un discours de 27 000 signes, autrement dit de 5 000 mots en gros, de l'allemand à l'arabe littéraire et de l'arabe littéraire à l'arabe dialectal pour les différents pays musulmans en 24 heures ou en 48 heures, puisque c'est ce qui s'est passé, de le faire lire à des spécialistes qui vont se prononcer et de communiquer aux diverses peuplades musulmanes le résultat des méditations de ces spécialistes. Ça tient pas debout, donc c'est une provocation. C'est évident que c'est une provocation. Et je répète que le sujet de l'islam est pratiquement absent de cette histoire. Le pape n'a tenu aucun propos. Il cite quelqu'un qui cite un auteur qui cite l'empereur byzantin. Donc tout ça est une arnaque invraisemblable, une imposture. Il y a des crétins qui ont suivi, parce que de toute façon ils suivent n'importe quoi, c'est l'infraculture journalistique, mais il y a des salopards derrière qui ont fait une manip, et on finira par savoir comment ça s'est passé. D'ailleurs c'est pas compliqué, c'est toujours les mêmes. Et le fond du problème, c'est tout simplement le rapprochement, ça paraît fou, le fond de ce discours, c'est la nécessité d'un rapprochement entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. L'Église d'Occident devant, nous dit le pape, ré-héléniser sa culture, c'est-à-dire intégrer la raison au discours spirituel. L'histoire de l'islam, c'est absolument subalterne. On s'en fout totalement des divagations de ces toqués.
Le discours intégral de Benoît XVI dans le Libre Journal numéro 387. Voilà.
Bien, alors maintenant, revenons.
Pardon, il y a un auditeur qui réagissait à ce propos. Avant-hier, au cours du journal du soir sur Radio Shalom, le directeur Robert Assaroff s'est permis de dire, à propos de la controverse suscitée par le pape, « De toute manière, ce pape devrait se taire car c'est un SS ». Je lis mon message. Hein. La veille, je n'ai pas entendu, moi. La veille, ils avaient fait part de la défense par un prêtre libanais des propos du pape et le journaliste Danton Goguenard a dit « Le père Montarac avait sans doute abusé du vin de messe ». Cette impunité devient insupportable.
Oui, oh, bon, vous savez, il faut voir d'où ça vient, c'est tout. Personne n'est obligé d'écouter ce radio Shalom. Personne. Moi, j'écoute pas. Comme ça, je suis tranquille. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir mes idées. Bien au contraire, disait ma conscience.
Laissez parler Bruno Maigret.
Alors voilà, Bruno Maigret. Venons-en maintenant à cette histoire. On vous accuse. On vous a traîné devant un tribunal pour une raison qui est quand même assez frappante sur le plan médiatique quand c'est annoncé. Bruno Maigret et Madame se sont livrés à des détournements de fonds. Alors là, les chiffres, c'est je sais pas combien de millions, de centaines de milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent, Bruno Maigret?
Expliquez-vous.
Vous n'avez même pas pris un abonnement au Libre Journal.
Il est parlé de cravate, ça fait tout de même une forte dépense.
Il est parti en timbre-poste. Voilà.
Donc vous faites travailler les postes de l'État déjà.
Alors, bon, je suis désolé de vous ramener maintenant avec cette affaire dans des considérations extrêmement terre-à-terre et subalternes après les propos éminemment intéressants et fondamentaux qui ont été les vôtres tout à l'heure. Bah, je veux pas non plus rentrer trop dans les détails parce que je crois que ça ne présente pas d'intérêt. Je dirais simplement la chose suivante et dans le fond cette affaire est extrêmement simple. Dans le cadre de ma campagne présidentielle, vous le savez, il faut recueillir des signatures de maire. Mon épouse était maire et donc j'avais demandé à mon épouse de faire un courrier puis un deuxième courrier à ses collègues, à certains de ses confrères collègues maires pour les inciter à parrainer ma candidature. Bon, à la suite d'une erreur fort regrettable, mais comme elle l'a dit elle-même, il y avait parfois quelques dysfonctionnements dans son entourage sur le plan de l'administration, et je crois que ce n'est pas que dans la commune de Vitrolles que ça existe.
Vous avez parlé d'énormes boulettes devant
vous. Oui, c'est elle qui a dit que c'était une énorme boulette, c'est vrai, c'est une énorme boulette vu les conséquences que ça a eu. Donc, une erreur a été commise, et au lieu que ce courrier imprimé et ensuite routé soit facturé à mon compte de campagne, ça a été pris en charge par le budget de la ville. C'était une lettre du maire et quelqu'un, quelque part, a dit « L'aide du maire, c'est la mairie qui paye ». On s'en est rendu compte, bien sûr, très rapidement. Dès que j'ai été informé, j'ai donné instruction pour qu'on régularise et les fonds ont été débloqués et le chèque a été encaissé sur les comptes de la collectivité publique. Bon, avec les lenteurs administratives habituelles, mais en 3 mois, c'était réglé. Alors, eh bien,
permettez-moi de vous interrompre pour un point qui me paraît quand même intéressant, c'est que si vous aviez été député à cette époque-là, vous pouviez utiliser le courrier de l'Assemblée nationale gratuitement pour faire ça. C'est-à-dire les députés envoient leur courrier gratuitement ou je me trompe?
Ah bah, les députés envoient des milliers et des milliers de lettres gratuitement chaque année. Et personne ne va regarder ce qu'il y a dedans.
Voilà, c'est ça.
C'est évident.
Donc, si vous aviez été député, personne n'aurait pu vous chercher des poules dans la tête. Vous pouvez même envoyer de la publicité.
Si moi j'avais été député.
Pour la brillantine Schmoldur, c'est.
Si moi j'avais été député, ça aurait peut-être été différent. Ouais. Mais en tout cas, ceux qui sont en place actuellement, personne ne va voir ce qu'ils envoient dans leur courrier. Alors, voilà, l'affaire, j'ai terminé. J'ajoute que cette au motif que ce courrier avait été pris en charge finalement pendant 3 mois par la mairie de Vitrolles bien malencontreusement, que le Conseil constitutionnel a rejeté mes comptes de campagne, ce qui m'a valu 5 millions de francs en moins pour payer les dépenses qui avaient été engagées. J'ai dû même, à titre personnel, rembourser le million que l'État m'avait avancé, que nous avions dépensé et qu'il fallait donc restituer. Et comme je l'ai dit au tribunal, c'est donc un détournement de fonds unique dans l'histoire de la République, puisque c'est un détournement de fonds dans lequel les fonds sont pratiquement dès l'origine dans les caisses de la collectivité et qui a permis de surcroît à la collectivité de faire 5 millions de francs d'économie. Hein. Alors, pratiquement, je disais, des détournements de fonds comme ça, il en faudrait tous les jours pour enflouer les caisses de l'État.
Hein. Alors, il faut indiquer aussi que, par exemple, M. Juppé, lui, vous l'avez fait remarquer au cours du procès, qui n'a jamais rien remboursé, pour autant que je sache, peut se présenter à l'expiration de son délai d'inéligibilité. Mais, donc, il se présente en provoquant, pour ce faire, une élection, une campagne qui va coûter... Alors, j'ai lu quelque part, combien c'est ? 3 millions de francs ? L'équivalent de 3 millions de francs ? 3 millions d'euros, on finit par plus savoir.
Ça me paraît faible.
Hein. 3 millions d'euros, c'est beaucoup. 3 millions de francs, c'est pas énorme.
3 millions d'euros, hein. C'est 3 millions d'euros, compte tenu de l'importance de la ville, car c'est une grande ville, oui.
Alors, donc, ça va être à la charge du trésor public, enfin, de la collectivité.
Exactement.
Le Front National a introduit un recours avec l'approbation du canard enchaîné de ce jour.
Oui. Enfin, pas avec, il n'a pas introduit avec l'approbation, il a introduit un recours que le canard enchaîné cite sans pour une fois manifester d'ironie déplaisante, ou déplacée ou exagérée. Alors donc, quelle est la position quelle est votre position de défense en dehors
les faits parlent d'eux-mêmes. Ce que je suis quand même obligé de dire, et ça c'est particulièrement déplaisant pour ceux qui vont l'entendre, mais surtout pour moi, c'est que malgré tout dans cette affaire, il faut bien le reconnaître, le juge d'instruction, à l'issue de son instruction, ne m'avait pas mis en cause et ne m'avait pas mis en examen. Et si finalement j'ai été mis en examen, et si je me suis retrouvé dans le tribunal, devant le tribunal correctionnel, c'est parce que M. Franck Timmermans a fait une démarche auprès du procureur de la République et est venu d'ailleurs hier personnellement témoigner contre moi en disant « C'est pas vrai ce que dit M. Maigret, ça s'est pas passé comme il l'a dit. Je peux témoigner qu'il voulait délibérément faire prendre en charge ce courrier par la commune de Vitrolles, qu'il a fraudé, qu'il doit donc assumer. »
Franck Timmermans, ancien numéro 3 du MNR, il faut le dire, même si c'est déplaisant pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas.
Voilà, et actuel président du Parti Populiste. Et donc, voulant ainsi assouvir une haine, une rancœur, une aigreur, que sais-je, en tout cas réglant des comptes, alors qu'il était de surcroît miraculeusement épargné dans cette enquête judiciaire, puisqu'il était responsable de la collecte des signatures de maire et qu'à ce titre, il aurait très bien pu se trouver mis en examen et qu'il ne l'a pas été parce que personne n'a rappelé au juge que c'était sa fonction. Timmermans, a provoqué ma mise en examen et c'est le seul élément dont disposent les juges pour m'impliquer dans cette affaire.
Sur le plan, même pas sur le plan politique, mais sur le plan de la morale humaine, c'est quand même une affaire assez profondément déplaisante parce que on a l'impression que derrière les faits, qui sont vraiment très banals, quoi. Bon, c'est vrai qu'on peut se tromper. Je me souviens quand j'étais à Toulon, par exemple, je suis pas resté longtemps, mais il y avait un brave type qui avait un accès à sa propriété, enfin à sa propriété, à son chantier, c'était un endroit où il stockait des véhicules de chantier. Et cet accès était en terre. Et comme c'était dans un endroit où c'était raviné sans arrêt, la route qui passait devant était sans arrêt refaite par la voirie locale. Et il vient me voir, on me l'envoie dans mon bureau, il me dit, écoutez, là les ouvriers sont en train de refaire la route, le soir ils partent, ils abandonnent sur le bas-côté du goudron, du gravillon goudronné, au lieu de l'abandonner sur le bas-côté, est-ce que vous pouvez pas leur demander de l'abandonner sur l'endroit d'accès de ma propriété, ce qui me permettra avec mes ouvriers de tasser tout ça, puis ça évitera que mes camions... Bon, je dis, moi, si, il n'y a aucun problème. Bien sûr qu'ils le jettent là ou là. S'ils le jettent, c'est bon. Oh mon Dieu, quelle aventure. Pour un peu, je me serais retrouvé dans les tribunaux pour détournement de goudron. Ouais, hein. Heureusement, ouais. un collaborateur ouais. du maire m'a dit, mais ne fais surtout pas ça, mais tu te rends compte, mais ce serait considéré comme du vol, etc. Voilà. Alors,
il pleut des pierres sur la droite nationale
et tous alors, les jours. Hein. Je l'ai rappelé au juge hier, mais dans le même temps, on apprend, il y a quelques mois, que M. Blondel, dont le chauffeur garde du corps a été payé pendant 10 ans par la mairie de Paris, se trouve tout d'un coup mis en cause par cette affaire et qu'il ait négocié le remboursement 10 ans après, lui. Pour éviter les poursuites.
Monsieur Blondel, ancien secrétaire général de Force ouvrière, proche des trotskistes.
Dans le même esprit, Monsieur Poncelet, président du Sénat, dont la collaboratrice a été payée pendant 28 ans par France Télécom et une autre société. Là aussi, mis en cause, on régularise après coup. On régularise 28 ans après.
Alors, tu vas vous faire remarquer que là, par rapport à ces gens-là, vous avez deux handicaps.
D'une part, c'est vrai,
sauf, rectification récente, vous n'êtes pas trotskiste. Deuxième chose, sauf effectivement encore rectification récente, vous n'êtes pas franc-maçon, contrairement à M. Poncelet. Et donc, là, c'est...
Voilà.
Bénéficiez pas du soutien de rigueur.
J'ai pas tout compris encore.
Non, est-ce qu'il est indiscret, Bruno Maigret, et vous refuserez, vous rejetterez la question, si c'est indiscret, de vous demander pourquoi Catherine Maigret était absente du tribunal. Est-ce qu'elle est personnellement éprouvée ou...
Bah, mon épouse a refusé...
Que la presse l'a relevé, naturellement.
Bien sûr. Mais mon épouse a refusé délibérément, en un acte politique, de venir à ce procès, considérant que qu'elle n'avait plus la moindre confiance dans les tribunaux, que sa présence ne changerait rien à la chose et qu'elle ne voulait pas se prêter à cette espèce de parodie de justice. Bon, j'y suis allé moi-même parce que je pense qu'il fallait quand même dire un certain nombre de vérités que je me suis pas privé de dire à la fois au juge et surtout au procureur, parce que le dernier élément qui mérite d'être cité devant nos auditeurs, ce sont les peines qui ont été requises par le procureur de la République. Parce que ce procureur de la République, qui n'a d'ailleurs tenu absolument aucun compte des débats, des faits, bien sûr que le témoignage de M. Timmermans, je l'ai démoli de A à Z, il n'avait évidemment aucune preuve, il ne reste que sa parole verbale. Lui a repris tout comme si je n'avais rien dit, même des faits matériels évidents. Ce procureur de la République requiert contre Catherine et moi 2 ans de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité, 50 000 € d'amende chacun. Il y en aurait, avec l'ensemble de tous nos amis co-inculpés, pour 1 000 000 de francs d'amende. Pour une dépense prétendument détournée et au demeurant remboursée de 200 000 francs. Et comme je l'ai dit au procureur, dans toute l'histoire de ces 20 dernières années, dans toute l'histoire des procès politico-judiciaires qui ne impliquaient pas des enrichissements personnels, il n'y a pas eu de peine plus sévère. Ce qui veut dire donc, à contrario, que ce que nous avons commis serait été ce qu'il y a eu de pire, de fait, sur le plan des détournements de fonds depuis 20 ans. C'est à se taper la tête contre les murs.
C'est quoi avec
Alors je lui ai dit, bah bien sûr, vous demandez 2 ans pour que, au bout du compte, je sois condamné à 1 an. Mais même 1 an d'inéligibilité, c'est la peine qu'a eu Monsieur Juppé. Monsieur Juppé qui a détourné à peu près 1 600 000 €. Ouais. Évidemment, il n'a rien remboursé.
Reconnu,
bien sûr. Alors là, les faits étaient établis, puisque il était directeur financier de la ville de Paris. Il mettait à disposition des fonctionnaires, enfin des gens payés par la ville de Paris, pour faire fonctionner le RPR dont il était le secrétaire général. Bon, et ça vaut la même peine, ou en l'état actuel des choses, une peine inférieure à notre histoire de corne-cul concernant quelques timbres-postes envoyés par erreur à Vitrolles et remboursés. Quand je vois que M. Donne-Dieu de Vab, qui se prélasse au ministère de la Culture, s'est déplacé avec une valise de billets de banque de 5 millions de francs détournés des fonds secrets du ministère de la Défense pour aller financer son parti dans une banque luxembourgeoise. Pas une inéligibilité, une simple amende.
Mais précisément, Bruno Maigret, est-ce qu'on ne peut pas dire que la justice et l'État se tirent une balle dans le pied avec cette persécution judiciaire? Oui. De même, quand Jean-Marie Le Pen est inéligible parce qu'il a élevé la voix, oui, contre une élue socialiste, ou quand Bruno Gollnisch est poursuivi, persécuté pendant 2 ans, alors qu'il vient et qu'il a dit qu'il croyait aux chambres à gaz. Est-ce que les gens qui vous écoutent attentivement, ou les gens qui étudient ces affaires attentivement, sont pas en train de se dire, mais s'ils ne sont pas des saints, ces dirigeants de la droite nationale, l'État est en train d'en faire des saints?
Oui, j'ajoute d'ailleurs, je vais aller tout à fait dans votre sens, mais j'ajoute un dernier élément que j'ai soulevé devant la justice, parce que là aussi c'est énorme. Ces procès, pour ce qui me concerne, arrivent toujours au moment où démarre une campagne électorale. L'affaire précédente, Quadrisystème, dans laquelle j'ai été condamné parce que je préside un mouvement qui a bénéficié d'un prêt d'une société qui n'aurait pas pris suffisamment de garanties en nous prêtant cet argent. Bien, ce procès Quadrisystème est arrivé le 15 et 16 décembre 2003, à quelques mois des élections régionales de 2004 à laquelle j'étais candidat. Cette affaire de timbre-poste de Vitrolles, qui traîne depuis 4 ans et demi, vient comme par hasard en jugement au moment où démarre la campagne présidentielle à laquelle jusqu'à présent je suis candidat.
D'une certaine manière, il y a une contre-preuve ou une preuve superfétatoire, c'est la sortie invraisemblable de Klarsfeld à propos du procès Le Pen, qui écume littéralement en disant « mais ce procès doit avoir lieu avant la présidentielle ».
Exactement.
Ça veut dire, évidemment, il s'agit de le condamner pour pas qu'il soit candidat à la présidentielle. Donc on voit bien que tout ça, c'est une instrumentalisation de la justice. Moi, je fais pas partie des imbéciles qui disent « j'ai confiance dans la justice de mon pays ». Je n'ai aucune confiance dans la justice de mon pays, absolument aucune, et encore moins depuis ma mésaventure avec le juge Tchalian, qui m'a fait condamner sur une photocopie, ce qui est un déni de justice absolument caractérisé, après m'avoir fait saisir à mon domicile alors que j'avais une expertise médicale qui attestait que je ne pouvais en aucun cas comparaître devant lui puisque j'étais extrêmement malade. Enfin, ces gens-là se comportent vraiment d'une façon scandaleuse. Ce qui se passe, c'est qu'on peut reprocher un juge, par exemple le juge Doutreau, on peut lui reprocher d'être incompétent. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le juge Dutroux, il a commis un délit gravissime de forfaiture, puisqu'il a fait du chantage à la détention pour obtenir des faux aveux. Ça, personne n'en a parlé, personne ne l'a poursuivi pour ça. On est dans une situation aujourd'hui où la magistrature est totalement déshonorée par le fait qu'elle est assujettie, à plat ventre devant le pouvoir politique. Et pour une raison simple, c'est parce que le pouvoir politique distribue des décorations, des prébendes et des menaces. On est dans une situation où le pouvoir est mafieux. Écoutez, un pouvoir dont le chef de l'État est à l'évidence un type malhonnête qui a pillé les fonds de l'État, donc qui a eu comme Premier ministre un gars qui a pillé les fonds de l'État, qui a eu des ministres qui ont voler les fonds publics, etc., c'est un pouvoir mafieux. Et évidemment, s'il y avait une justice digne de ce nom, tous ces gens-là seraient en tôle. Or, vous les voyez rencontrer... Alors, ça se rencontre dans les loges, ça se rencontre dans les restaurants, ça se rencontre probablement dans les boîtes à partouzes. Il y a qu'à lire le bouquin Politicus et Sexus.
Pourquoi probablement?
Oui, pourquoi probablement?
Vous voulez que j'entre dans les détails?
Non, n'entrez surtout pas dans une boîte à partout non plus d'ailleurs.
Alors, ceci dit, ce qui est positif, là je rebondis sur ce que disait...
mon monsieur, camarade Goffman.
Voilà. À l'instant, ce qui est positif, effectivement, c'est que malgré tout l'opinion s'en rend compte. Lorsque la justice devient injuste et cesse d'exister, les gens s'en rendent compte. Et moi, je l'ai dit aussi au juge, vous savez, ne croyez pas qu'avec votre comportement, votre persécution, vous me discréditez. C'est pas moi que vous discréditez, c'est la justice qui se discrédite, et ça je crois qu'elle a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Et je m'en suis rendu compte ces tout derniers jours, puisque ça a été assez médiatisé. Je vois beaucoup de gens, il y a beaucoup beaucoup de gens qui me reconnaissent dans les lieux publics. Bah, une personne est venue me voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous détournez les fonds. Même des gens hostiles, parfois, auraient pu le faire. Personne. Et toutes les remarques que j'ai eues, toutes les commentaires que j'ai eus, c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'ils vous ont mis encore? Mais ça n'arrête pas. Personne n'est dupe.
À propos de ce que vous disiez du réquisitoire du procureur, qui n'avait en rien été modifié par le déroulement des débats. Ça, bon, c'est un problème qui dépasse notre conversation de ce soir, qui serait trop long de traiter, mais ça pose quand même une véritable question. À quoi servent les débats devant les tribunaux populaires ou les tribunaux ouverts, puisqu'on sait très bien que le magistrat, le procureur de la République ou le substitut rédige son réquisitoire avant les débats? Qu'est-ce que Exactement. Vous faites? Je rédige mon réquisitoire. Donc, tout ce qui va se passer, c'est du théâtre, ça sert à rien.
Exactement.
Hein, vous savez déjà ce que vous allez demander. Vous avez strictement rien à foutre de ce que vont raconter les témoins, les victimes, les auteurs présumés. Vous allez réclamer à la fin. Alors, il sait, lui, depuis 3 mois, ou depuis 15 jours, qu'il va demander 2 ans avec sursis pour Bruno Maigret et madame. Et pourquoi il le sait? Ben, tout simplement parce qu'il c'est le magistrat du ciel. Et que on l'appelle et on lui dit dites donc bonhomme c'est le moment, celui-là vous voulez me l'aligner. Il faut qu'il soit inéligible. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route, vous écoutez Bruno Maigret s'expliquer sur ces détournements de fonds à Vitrolles sur Radio Courtoisie.
Bon, alors voilà, je crois
Oui, il y a des messages, oui, des messages de soutien. Alors, nous ne sommes pas dupes de tout ce qu'on raconte et nous vous soutenons. Un auditeur de Cherbourg. Monsieur Maigret, pourquoi ne portez-vous pas plainte contre les médias qui écrivent dans leurs feuilles de chou détournement de fonds, laissant penser à tous que vous vous êtes rempli les poches de monnaie sonnante et trébuchante? Alors, des auditeurs. De nombreux maires ne se sont pas gênés l'an dernier pour nous arroser de courriers pro-constitution européenne aux frais de la princesse, sans qu'aucune poursuite ne soit entamée. Une auditrice, des petites folies municipales dans les autres municipalités, c'est pas aussi une boulette? Et là, apparemment, la justice ferme les yeux. Et quand Toubon a envoyé un hélicoptère dans l'Himalaya, c'était pas une boulette, peut-être? Mais là, pas de problème.
C'est une boulette de neige aussi.
Ça fond. On peut rajouter dans les abus l'appartement Peugeot, la garde du corps de Mazarine. Remarque insistante. Peut-on espérer la paix? Alors là, autre sujet. Peut-on espérer la paix entre les droites nationales avant les présidentielles?
Ah ben on va y venir.
On va y venir. Ben, je remercie les auditeurs qui m'apportent leur soutien. Je veux dire que c'est réconfortant.
On va prendre la défense de Toubon. Il y avait une bonne raison d'envoyer un hélicoptère dans l'Himalaya. C'est qu'à propos du procureur, ou c'était le juge d'instruction, il se posait la question, y est-il ou y est-il pas?
Bon. Je veux dire, quand même, en reparlant des autres municipalités, il y a une petite anecdote que j'ai aussi servi au juge, parce que le pire de tout, c'est qu'on s'était forcé à essayer d'être le plus exemplaire possible, bien sûr, avec toutes nos faiblesses, avec toutes les difficultés auxquelles on a été confronté, notamment lorsque mon épouse a été élue maire. Elle a tenu à montrer, comme elle l'avait annoncé, qu'on n'était pas engagé là-dedans par intérêt. Donc elle a réduit les indemnités des élus. Elle a divisé par 2 ses frais de représentation. Quand la municipalité socialiste est arrivée derrière nous, ils ont multiplié par 2, la première décision, multiplié par 2 la rémunération des élus.
Oui, mais eux, écoutez, eux, ils n'ont vraiment pas besoin de faire semblant d'être honnêtes.
Voilà, ils étaient derrière en partie civile à hurler avec le procureur.
Il faut rappeler aussi, ce qui est peut-être trop évident pour vous, Bruno Maigret, que votre épouse Catherine n'a pas fait l'ENA, n'a pas fait Sciences Po, et qu'elle s'est présentée au suffrage des Vitrolais, tout simplement parce que vous étiez déjà inéligible à l'époque, sans aucune expérience. Donc c'est peut-être assez cruel de lui reprocher une erreur d'aiguillage pour quelques timbres, quelques planches de timbres.
Bien sûr, bien sûr. Bon, d'abord, j'étais déjà inéligible à la suite d'une magouille judiciaire. Ça avait déjà commencé à ce moment-là. Et c'est vrai que, je le dis, parce que je crois que c'est la vérité, elle a montré beaucoup de courage et beaucoup de dévouement dans cette affaire, parce que non seulement elle n'avait pas l'expérience technique, Mais c'était pas n'importe quelle mairie et dans n'importe quelle condition. Elle a dû affronter les foudres des médias, elle a dû affronter les foudres de Ralfron et de toutes les organisations terroristes d'extrême gauche, elle a dû affronter les foudres de toute l'opposition politique et de tous les sabotages internes diligentés par ceux qui ne partageaient pas nos opinions. Donc on ne pouvait pas imaginer situation plus difficile. Elle a tout assumé avec beaucoup de courage et de bonne humeur. Et je veux dire, quand on voit après le procureur de la République venir se moquer d'elle avec beaucoup de mépris sur ses insuffisances prétendues, c'est vraiment le monde à l'envers.
Elle est insuffisante ou criminelle, là? Il faudrait peut-être quand même qu'ils mettent au point leur système d'attaque.
Ouais. Non, mais l'essentiel, c'est de montrer que quand il s'agit de quelqu'un qui est classé droite nationale, on peut le traiter comme on veut. On peut, voilà, il a droit à aucune des précautions qu'on prend avec les autres personnes.
Contre le bon sens, mais...
Bruno, il y a une question de fond, si j'ose dire. Vous n'en avez pas marre, au fond, parce que ça fait des années, ouais, que vous battez.
Et qu'il pleut des pierres
et sur votre tête. Pierres, que vous, alors, Le Pen parlait du bol de crapaud qu'on avale tous les matins, ouais. Vous avez votre dose aussi. Oui, au moins, vous avez un même régime, là.
J'ai eu un sacré... Oui, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu pas mal avec aussi, disons-le, parce que j'en ai pas honte, avec aussi les échecs électoraux.
Oui, bien sûr.
L'ensemble de tout ce qui allait avec. C'est vrai que si je regarde depuis 2002, rien que depuis 2002, ça a été une accumulation de difficultés majeures venant de toutes sortes, politiques, électorales, financières, judiciaires, amicales, humaines. J'en viens d'en parler avec beaucoup de déception, c'est vrai. Alors, si je vous disais non, je suis très heureux, tout va bien, je vous mentirais. Il m'arrive certains soirs d'en avoir marre, ouais. C'est sûr. Bien évidemment.
Parce qu'il y a des hommes politiques, on se dit de toute façon, ou ils font ça, ou ils font la manche, quoi.
Bon. Mais vous, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, quand même.
Moi, j'ai pas besoin de la politique, ça, c'est certain. C'est ça. Comme je le dis dans mon bouquin, j'aurais pu à un moment décider de faire autre chose, m'investir totalement dans mon travail, créer une entreprise, ou bien faire m'occuper de ma famille davantage que je ne le fais. Moi, je suis persuadé, et je pense que ça va nous amener au sujet suivant. Ce qui me maintient et ce qui me détermine à continuer, c'est que je suis aujourd'hui encore convaincu que c'est pas foutu pour la France, qu'il y a la possibilité d'un redressement, tout est ouvert, même si tout devient de plus en plus difficile, mais j'ai le sentiment qu'à mesure qu'on s'approche du précipice, en même temps, les réactions salutaires se multiplient, et que ce serait à la fois indigne, stupide, déshonorant et absurde d'abandonner alors qu'on n'a pas été au bout de la route, alors qu'on n'a pas été au bout de tout ce qu'on pouvait faire. Et j'ai le sentiment de pouvoir faire encore beaucoup. Vous savez, les traversées du désert, on finit par en sortir. Et je pense que...
Vous faites des détours, là, il faut dire.
Oui, c'est vrai.
40 jours, c'est écoulé depuis un moment.
Vous savez qu'il y a Serge le gentil et puis son bras gauche le méchant. Donc je voudrais reposer la question de Serge de façon moins gentille, plus méchante et plus précise à la fois. On pourrait vous la poser comme ça. Est-ce que, même si vous avez expliqué de façon assez convaincante qu'en 98, vous aviez été acculé à la rupture avec le Front National, est-ce que ça n'était pas quand même une erreur?
Alors écoutez, votre question tombe mal parce que justement ce que je vais dire tout à l'heure, c'est qu'il faut dépasser tout ça, cesser d'y revenir et aller de l'avant de façon positive.
Ouais, mais vous avez un joker, hein.
Mais, non, mais je veux quand même le dire, je ne regrette rien, j'assume tout ce que j'ai fait. Bon, ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Après, avec le recul, on peut évaluer telle ou telle responsabilité. Mais moi, je ne regrette rien. Par contre, je pense en effet qu'il faut tirer les conclusions de la situation présente, qui, objectivement, pour la droite nationale, est pas si brillante que ça. Le Front National, dont le candidat s'est retrouvé au deuxième tour des élections présidentielles en 2002, aurait pu, à la suite de cet extraordinaire événement, développer une dynamique formidable qui en fasse une force politique redoutable. Rien de tel n'est survenu. On a plutôt l'impression que tout ça...
Vous aviez appelé à voter pour lui au deuxième tour, ce qui était peut-être déjà une esquisse de rapprochement.
J'ai appelé à voter pour lui au deuxième tour, et ce qui prouve que je n'ai pas perdu le cap de ce qu'il faut faire. Hein. Je n'ai pas perdu le cap de mes idées. Mais de l'autre côté, c'est vrai que le MNR n'a pas réussi son projet, qui était un projet de rénovation de la droite nationale. C'est pas l'entreprise de Philippe de Villiers qui va déboucher sur quoi que ce soit. Par contre, je crois que la situation est suffisamment grave pour que on puisse maintenant se dire, et si on réunissait tout cela dans une démarche nouvelle, est-ce que ça ne serait pas la possibilité qu'attendent les Français d'une force qui puisse enfin créer une alternative, l'alternative qu'ils attendent pour balayer cette classe politique, ce système dont ils ne veulent plus quand même, mais qu'ils conservent parce qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de réelle alternative.
Mais quand vous écrivez, vous venez de publier, donc on l'a dit, un livre intitulé « L'autre scénario pour la France et l'Europe », bon, vous faites un examen clinique de la situation, et vous, surtout vous apportez des propositions, des directions. Qu'est-ce qui vous paraît le plus immédiatement indispensable? Quelle est la première des priorités, la plus urgente des priorités
pour... À faire, si on était au pouvoir.
Oui, c'est ça.
Oui, eh ben, la première priorité, si on est au pouvoir, c'est de reconquérir le pouvoir. Je veux dire par là que la tare la plus grande aujourd'hui du système, c'est qu'il est devenu complètement impuissant. Or, tout de même, faut pas l'oublier, le propre du politique, c'est d'exercer le pouvoir, c'est-à-dire de trancher, de prendre des décisions, d'ouvrir des voies, de suivre une stratégie. Il n'y a plus rien de tel. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, le premier pouvoir, c'est plus le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif, c'est le pouvoir médiatique. Que le deuxième pouvoir, on vient d'en parler, c'est le pouvoir judiciaire. Et que derrière, vous avez le pouvoir politique qui suit comme un toutou, terrorisé par les uns, subjugué par les autres. Et ça, c'est déjà le fond du problème. Car, qu'est-ce que c'est? Le pouvoir médiatique, c'est un pouvoir d'influence considérable chez nous aujourd'hui. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir de contrôle, et le pouvoir politique devrait être un pouvoir d'exécution. Mais si, dans notre pays, aujourd'hui, le pouvoir d'exécution est à la remorque du pouvoir de contrôle et d'influence, si l'influence et le contrôle dominent, si on ne fait qu'influencer les choses et les esprits et contrôler tout le monde en permanence, faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus rien qui soit fait,
mais entrepris. Le problème de la prise du pouvoir, la reconquête du pouvoir, quand vous dites la reconquête, oui. Donc la reconquête des pouvoirs.
Parce bien que sûr.
Reconquérir la prédominance sur le pouvoir judiciaire, en tout cas éviter que le pouvoir judiciaire soit prédominant sur le pouvoir exécutif, lequel est dans un tel mélange de compétences ou d'importance avec le pouvoir législatif qu'on finit par même plus faire la différence. Mais il y a un pouvoir qui échappe totalement, sauf alors disposition de caractère dictatorial, c'est le pouvoir médiatique. Parce que le problème du pouvoir médiatique, le pouvoir médiatique est intrinsèquement différent des autres pouvoirs. Ce ne sont pas des gens qui détiennent un pouvoir réel de sanction, d'intervention, de proposition. Ils détiennent un pouvoir qui est fondé sur la crédulité, oui, et la sottise de la masse.
Oui.
Mais c'était dans le journal, vu à la télé, voilà.
Oui, alors
on n'y peut rien.
Vous avez raison, mais je ne partage pas les conséquences que vous en tirez en disant on n'y peut rien.
Il faut rééduquer un peu.
Non, je vais prendre un exemple concret pour me faire comprendre. Le pouvoir médiatique, il a du pouvoir dans la mesure où on le lui reconnaît, ce pouvoir. Je prends un exemple concret pour illustrer mon propos, l'affaire des clandestins, par exemple. Si demain, j'étais au pouvoir, j'ordonnerais, et ça, d'ailleurs, tout le monde est d'accord sur le principe, l'expulsion des clandestins. pas l'expulsion comme Sarkozy de quelques 40 clandestins d'un squat, mais l'expulsion de milliers de personnes chaque semaine du territoire français. Ça serait le tollé médiatique, bien sûr, dans tous les sens. Il faut répondre, et alors ? Vous n'êtes pas content ? Et alors ? On continue. La deuxième semaine, ça serait pareil. Ça serait le tollé. La troisième semaine, ça serait le tollé. La quatrième semaine, ça serait le tollé. Et alors ? La cinquième semaine, il y aurait, je ne sais pas, un tsunami dans le Pacifique. Ou bien un tremblement de terre au Moyen-Orient, ou un ouragan dans les Caraïbes, ou alors tout simplement une autre réforme qu'on aurait pris et qui ne leur conviendrait pas non plus. Mais et après, eh ben ça deviendrait, et on continuerait pendant ce temps-là, et ça rentrerait dans la normalité, comme aujourd'hui on nous explique qu'il est normal qu'il y ait à peu près 100 voitures qui brûlent tous les soirs, on n'en parle plus. Je pense qu'il y a toute une série de stratégies qui peuvent être développées sans même parler de la remise en ordre du système médiatique qu'il faudrait faire. Mais il y a toute une série de stratégies qui pourraient être menées pour déconsidérer le système, pour le prendre à son propre jeu, à son propre piège, à ses propres règles.
Et à condition que les ministres ne couchent plus avec les journalistes.
Oui, ça c'est une autre question.
La bague au doigt ou non.
Si, c'est...
Oui, parce que vous comprenez ce que vous dites là, ça va bien si on est à une certaine distance des journalistes. Mais enfin, quand on a une journaliste célèbre dans son lit tous les soirs qui vous dit « Oh, quand même, chérie, tu vas encore déporter ces pauvres gens
», ça vous intéresse ?
C'est pas la même chose, hein, du tout.
Bizarre, ce témoignage est étrange.
Voilà.
Bon, on va donner la parole aux auditeurs quand même qui réclament...
Là, c'est un auditeur qui n'a pas dû bien suivre parce qu'il dit « Monsieur Maigret avait annoncé qu'il rejoignait l'Union patriotique, mais aujourd'hui il annonce qu'il se présente à l'élection présidentielle. Ah. Ce n'est pas logique qu'il nous explique. »
Oui, alors ça, je pense qu'on va en parler, Serge.
Oui, oui, oui.
Je répondrai en deux mots pour rassurer cet auditeur. Je suis pour l'Union patriotique, mais aujourd'hui, elle n'est pas faite. Donc, pour l'instant, je suis toujours candidat à l'élection présidentielle. Mais je suis toujours prêt à me retirer si cette Union patriotique se fait. Donc, de ce point de vue-là, je le rassure. Il n'y a pas de problème.
Et alors, un autre auditeur compte sur vous. Que peut-on faire pour que Philippe de Villiers rejoigne l'Union patriotique afin qu'il y ait un seul candidat du camp national à l'élection présidentielle?
Là aussi, je dirais chaque chose en son temps. Commençons déjà par faire l'Union patriotique
avec les patriotes.
Avec bon, en tout cas avec le Front National, avec le MNR, et puis en l'élargissant au-delà ensuite.
C'est tout, enfin de. Voilà, un autre auditeur dit « Est-il vrai que Philippe de Villiers serait futur ministre au cas de victoire de Sarkozy à la présidentielle ?» Mais là, on est dans
non, ils sont brouillés.
C'est ce qu'on a lu dans la presse,
fiction,
oui.
Personne n'en sait rien, c'est pas très...
Et ce qu'on a lu dans le Libre Journal, c'est qu'ils sont brouillés. On a expliqué pourquoi.
Canards, en fait. Ouais.
Est-ce que je peux ajouter, Serge, aux arguments de Bruno Bergret pour vous convaincre que nous pouvons faire quelque chose avec nos 3000 abonnés ? Moi aussi, je voudrais vous donner un exemple concret. Il y a 2 ans, nous dénonçons avec tous les détails les mosquées de Roissy, les islamistes qui sont incrustés à Roissy, et aucun écho. Et là, vous pouviez dire, ah ben ça sert à rien ce qu'on fait. 2 ans après, il suffit d'attendre 2 ans, et Philippe de Villiers, encore lui, en fait un best-seller.
Ben oui, c'est vrai.
Voilà à quoi on sert.
C'est vrai.
Et on se fait piller, mais ça fait
rien. Il y a quand même quelque chose qu'il faut que je dise, parce que ça me brûle les lèvres, c'est... Il y a quelqu'un qui n'a pas de chance dans cette histoire, c'est... Comment s'appelle cet excellent garçon qui était votre co-inculpé dans cette affaire?
Ah, Il y en a plusieurs.
Qui est passé chez De Villiers.
Ah, Damien Barrier.
Et je veux dire que c'est un peu triste, quoi. Il est parti trop tard. Mais c'est vrai que Villiers n'avait pas encore ouvert les portes du Sanhédrin, donc il pouvait pas... Mais enfin, quand même, c'est embêtant pour lui, hein. Il est parti, il arrive chez Villiers avec une condamnation plus que probable. C'est embêtant.
Oui, mais qui n'a rien d'infamant.
Ah ben non, pas du tout.
Qui n'a rien d'infamant.
Pour lui, ça n'a rien d'infamant. C'est pour Villiers que c'est en pouvoir. Ouais, vous créez un nouveau parti, vous retrouvez qu'il y a des inculpés, des condamnés et tout. Alors qu'il était... S'il voulait absolument avoir des gens qui avaient des casseroles aux fesses, il avait qu'à continuer à travailler avec l'UFP.
Barillet a joué à la roulette russe.
Très bon, très très bien. Bien, maintenant, alors, la question, venons-y très clairement.
Sur Radio Courtoisie.
la question de l'union des patriotes ou d'une, je ne sais pas comment il faut appeler ça, la coalition des forces nationales, des énergies nationales, en vue d'une victoire ou en tout cas d'un score important à la présidentielle. Alors, quelle est votre position à vous ?
Alors, les choses là aussi, de mon point de vue, sont simples. J'ai toujours été partisan, enfin j'ai toujours, depuis déjà plusieurs années, été partisan d'un regroupement, d'une synergie. Je rappelle que par exemple pour la campagne sur le référendum constitutionnel européen, j'avais proposé une réunion commune de l'ensemble des partisans du non de droite afin de peser plus fort. Je trouvais qu'on parlait beaucoup des opposants de gauche et pas assez des opposants de droite. Donc j'ai toujours été dans cet esprit, mais enfin jusqu'à présent j'ai pas beaucoup de retours. Alors il se trouve qu'un événement très important s'est produit, que j'ai salué, qui me paraît très méritoire, c'est la proposition de Jean-Marie Le Pen d'une alliance, d'une union patriotique, comme il l'a appelé, pour les élections présidentielles et législatives de 2007. Donc, il a fait cette proposition que je salue et j'ai répondu favorablement. Voilà. Donc pour l'instant, je dirais officiellement, nous en sommes là, et j'ai répondu avec favorablement, avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'enthousiasme, parce que je pense en effet que ça peut être un événement déterminant pour l'avenir du pays, pour l'avenir de notre combat. Il se trouve que 2007, c'est les élections majeures, il se trouve que la situation de notre pays est dramatique, il se trouve qu'il y a eu toute une série d'événements qui ont quand même ouvert un peu les yeux à beaucoup de gens. Je parle des émeutes de novembre 2005, le référendum sur la Constitution, etc. Et je pense que on peut créer un choc politique avec cette union patriotique. Pourquoi ? Parce que ça peut créer un événement nouveau qui provoque une dynamique. Première chose, on se dispute dans chaque camp. Chez les socialistes, c'est branquignolesque. Entre les sarkozistes et les chiraciens, ça ne l'est pas moins. Si dans notre camp, après, c'est vrai, une scission spectaculaire et fort douloureuse, il y a une réconciliation dans l'intérêt national. Sans revenir sur le passé, il ne s'agit pas de faire de demander à l'un ou l'autre de faire amende honorable. Comme je l'ai dit, ni Le Pen ni moi ne sommes des adeptes de la repentance. Il n'est pas question de ça. Donc il peut y avoir encore des divergences, il peut y avoir encore des différences. On les garde, on les met de côté, on n'en parle pas, mais on s'intéresse à l'essentiel, c'est-à-dire à l'intérêt de la nation. Alors ça montrerait déjà une différence. Ça serait un événement spectaculaire dans l'histoire politique. Ça n'existe pratiquement pas. J'ai pas d'autres exemples en tête d'une réconciliation entre deux protagonistes qui se sont tout de même, c'est vrai, déchirés, d'une réconciliation dans l'intérêt du pays. Deuxièmement, tous ceux qui ont un peu posé le sac, un peu découragé de voir le Front National manquer de tonus, de voir le MNR s'étioler, de voir tout ça se fragmenter, reprendront espoir, se remobiliseront. Et quand je pense à ça, je ne parle pas seulement des militants, je parle aussi bien sûr des électeurs. Troisièmement, vous le savez bien, tout ce qui est nouveau en politique, avec le système médiatique actuel, est toujours plus attrayant que la routine. Bon, or, ça n'est pas lui faire injure à Jean-Marie Le Pen, que de dire que sa candidature, s'il n'y a rien de nouveau, bah, est un petit peu routinière. Donc, je crois que ça peut créer une dynamique de grande ampleur qui peut provoquer un basculement politique en 2007. Alors moi, je suis à fond pour cette union patriotique.
Alors, moi, j'étais contre, mais vous m'avez presque convaincu. Alors, je suis pas entêté.
Ben voilà. Oui, alors ensuite, tout le problème est de savoir comment elle se fait et si elle va pouvoir se faire. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques problèmes qui se posent, que je pense qu'on peut aborder pour éclairer les auditeurs.
C'est
alors,
ce que nous verrons.
Il est 19h30 et qu'on va être obligé de mettre un terme à cette intéressante conversation. Mais on y reviendra. On y reviendra parce qu'on va suivre cette affaire de l'Union patriotique avec beaucoup d'attention. Et on va voir si ce sont les adeptes de l'Union ou les ennemis du racialisme qui vont gagner dans cette affaire. Merci Bruno Maigret, à bientôt.
Merci.
Alors voilà, il se passe un événement énorme que j'ai jamais vu. Ça fait 20 ans que je fais de la radio, j'ai jamais vu ça. C'est un putsch. Voilà que Victoria et Goffman m'ont dit non, il n'est pas question que Bruno Maigret s'en aille sans s'être expliqué plus avant.
Et nous sommes frustrés.
Elle était frustrée, cette pauvre Victoria.
Ça, on est torturé un peu.
Alors,
plus.
Bon,
il a eu une question désagréable depuis une heure et demie.
Alors, Bruno Maigret a accepté, avec une certaine réticence d'ailleurs, de rester parmi nous.
Mais non.
Eh bien, alors, puisque vous avez été aussi malin que ça, ben alors maintenant, dites ce que vous avez à dire, Victoria.
Dans le micro, s'il vous plaît.
Alors, je dis, ensuite, on traitera, comme prévu, de la question de l'assurance vie et pas seulement de ça avec Jean-Pierre Rondeau, président de Mégara Finance, et puis des histoires de savants maudits et chercheurs exclus avec Pierre Lance. Voilà, à vous maintenant.
Il y a des suggestions. Voilà, première suggestion d'un auditeur, pourquoi ne pas trouver une plateforme commune pour l'Union des Patriotes sur la base du refus à la Constitution européenne? Ce serait déjà un premier pas positif. Moi, ma question, c'était, mais ce qu'on demande, enfin, c'est de faire une union électorale et pas un nouveau parti où tout le monde serait à nouveau dedans et où tout le monde recommencerait à se taper sur la figure.
Non, il n'est pas question de se taper sur la figure. Il n'est pas question non plus de créer un nouveau parti. D'ailleurs, je le dis clairement, il ne s'agit pas pour le MNR de rallier le Front National. Chacun doit conserver son identité et son autonomie et son originalité, mais il est quand même nécessaire de créer une petite structure légère qui puisse concrétiser cette union, structure qui, bien sûr, ne doit pas être en quelque sorte, je dirais, un espèce d'UDF comme on l'a connu autrefois, qui aurait autorité sur ses membres, mais une structure de concertation à partir duquel on puisse faire rayonner cette dynamique de l'union.
Quand vous dites ça, Bruno Maigret, il se trouve au sein même, et même dans les secteurs les plus dynamiques du Front National, des militants, des cadres émérites, pour dire que vous êtes trop gourmand. J'ai lu et relu un peu dans tous les médias que vous exigiez, sans circonscription, que vous exigiez d'être le porte-parole de cette espèce de fédération que vous venez d'évoquer. Et on a fini des gens qui se présentaient auparavant comme les plus chauds partisans de l'Union patriotique, la cinglée de leur ironie, en se demandant, par exemple, dans le Figaro, ce que vous apportiez, par exemple, en termes de patronage et de financement, à part votre brillante intelligence, fin de citation.
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal entre nous, quand même. Bon, mais enfin, ceci dit, ce que je voudrais dire, d'abord, c'est que le MNR est un mouvement politique qui a une existence réelle. Nous avons des fédérations dans pratiquement chaque département. Nous avons plus de 200 élus municipaux. Nous avons investi 550 candidats aux élections législatives. Nous avons été présents à toutes les élections, en tout cas en termes de candidats. Nous organisons des colloques, nous publions des ouvrages. Bref, c'est une vraie force politique, certes handicapée par l'absence de finances, et puis, c'est vrai, faisons actuellement des scores limités, mais en termes de potentiel militant sur le terrain, nous avons une véritable réalité d'envergure.
Si je peux me permettre une incite très brève, je ne suis pas absolument certain que le manque de finances soit un véritable handicap.
Oui.
Je le dis sérieusement parce que on a au moins la certitude que les gens qui sont dans la boutique sont là pour des raisons parfaitement respectables. Et je veux dire que je connais quand même pas mal des militants du MNR, même si on a eu des points de désaccord. Et en tout cas, c'est des gens dont on peut pas prétendre qu'ils sont là pour pour des raisons intéressées. Je pense à Bertrand ou à Houdin. On peut dire que c'est vraiment évident. Dans la série des gens désintéressés, ils sont.
Mais c'est une force, si je puis dire, pure et dure, comme on dit.
Oui, oui, absolument.
Voilà. Alors. Ensuite, pour répondre à votre question, mes prétentions soi-disant exorbitantes, mais je dirais aujourd'hui, je n'ai pas annoncé quoi que ce soit. La seule chose qui soit établie, c'est que en donnant mon accord à cette union patriotique, j'étais prêt à me retirer de la candidature à la présidence de la République pour accepter le principe de la candidature unique de Jean-Marie Le Pen et que nous étions prêts à retirer une large partie de nos 550 candidats aux législatives pour faire candidature unique aux élections législatives. C'est tout ce que, pour l'instant, j'ai dit officiellement. Le reste, c'est des rumeurs. Alors, j'entends effectivement qu'on y dit qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il demande, on verra. Mais il faut pas inverser les rôles. Pour l'instant, c'est Le Pen qui a fait la proposition de l'Union patriotique. Moi, j'ai répondu oui. J'attends qu'on nous propose quelque chose de concret.
Il y a un calendrier
pour
de négociation ?
Non, pour l'instant, il n'y a pas de calendrier, parce que, disons les choses clairement, quand même, c'est vrai qu'il y a une sérieuse opposition d'un certain nombre de cadres du Front National. Je regrette d'ailleurs que ce soit Marine Le Pen qui mène la danse. Et je pense qu'elle doit réfléchir à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'intérêt politique que ça présenterait. Et je crois que c'est une grave erreur de la part de certains cadres du Front National. On en a eu chez nous aussi, mais on a réglé le problème. Mais c'est une grave erreur de la part de certains cadres du Front National de s'opposer à ça pour des considérations personnelles qu'il faut transcender, ou pour des rancunes, des aigreurs qui datent maintenant d'il y a plus de 8 ans. Je crois que ceux qui s'opposeront à cette union patriotique porteront une très lourde responsabilité, seront sévèrement jugés par l'électorat et par la famille nationale, parce que à la base il y a une grande aspiration et tout le monde n'attend que cela. Donc je crois qu'il faut que ceux qui ont mal réagi au départ, eh bien, changent leur attitude, cessent d'adopter des propos désagréables. Je ne veux pas faire de polémique, mais enfin, je crois qu'il faut maintenant s'engager là-dedans et commencer des discussions sans arrière-pensée.
Une question extrêmement pratique, technique et précise. Où en êtes-vous de la quête des signatures ? Je ne demande pas de chiffres, mais est-ce que vous êtes dans une perspective d'obtenir les 500 000.
La presse vous décrit en train de circuler en voiture, voiture personnelle.
Oui. Nous avons engagé, bien sûr, la collecte des signatures de maire. J'ai dit tout à l'heure qu'avant cette proposition d'union, j'étais candidat. Donc aujourd'hui, je le suis toujours, jusqu'à ce que les choses se décantent. Et l'étant toujours, nous continuons la collecte des signatures. Bon, c'est très difficile. Mais nous avons déjà engrangé un nombre significatif de signatures, et évidemment tout ça, si l'union se fait, sera mis dans la corbeille, si je puis dire, de ce mariage. À charge pour nous de convaincre les maires qui avaient signé pour moi de transformer leur signature sur le nom de Jean-Marie Le Pen, et puis ensuite on continuerait. Quand on me demande qu'est-ce que vous apportez dans cette union patriotique, moi je réponds, c'est pas compliqué, si elle se fait, on apportera tout ce qu'on peut. On ne lésinera sur rien, on s'engagera à fond, à tous les niveaux, avec tout ce qu'on peut apporter. Parce que si on fait ça, c'est pas pour des histoires de poste ou de position, c'est parce qu'il y a un événement, la France se porte mal, qu'il y a une opportunité qui se présente, et qu'il faut mettre le paquet pour essayer de provoquer un basculement, un changement du destin. Et donc, ces considérations pitoyables sur le nombre de circonscriptions paraissent complètement dépassées, complètement ridicules. En plus, c'est finalement très simple de se mettre d'accord, en réalité. Hein. Il suffit de prendre les chiffres obtenus par les uns et les autres aux différentes élections. Ça fait un ratio qui, de toute façon, est assez correspond à une logique toute simple.
Il y a un tel sentiment populaire en faveur de cette Union patriotique depuis le début, qu'on peut se demander si Philippe de Villiers ne stagne pas de la façon catastrophique dont il stagne dans les sondages, parce qu'il a non seulement repoussé la main tendue de Jean-Marie Le Pen, mais parce qu'il a craché dedans, oui. Quoi, en termes impubliables.
Et vous avez raison de souligner ça, et moi ce que je voudrais dire très solennellement à votre antenne, c'est que maintenant que Jean-Marie Le Pen a lancé cet appel, maintenant que j'y ai répondu, maintenant qu'un espoir est né auprès de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes, si ça ne devait pas se faire à cause des aigreurs, des réticences ou des ambitions carriéristes de certains ou de certaines, je crois que ça provoquerait un recul de la candidature de Jean-Marie Le Pen. Je pense que s'il n'y a pas cette union patriotique, Le Pen aura bien des difficultés à aller au deuxième tour. Il aura même peut-être des difficultés à avoir les signatures. S'il y a l'union patriotique, il y aura une dynamique au-delà de ce qu'apportera le MNR et de ce que pourront apporter les autres parties prenantes. Il y aura une dynamique. Il ne s'agit pas de faire 4 plus 1 égale 5. Il s'agit de faire 4 plus 1 égale 10, et peut-être davantage si
appartenant aux apprends à Polytechnique.
Eh bien oui,
ben
justement.
Oui. C'est que 4 plus 1, ça fait 41, voilà. Mon cher Serge.
Voilà.
Polytechnique et la dialectique que vous maîtrisez bien. Admirablement. Est-ce que le moment est venu de prendre congé et donc de faire la promotion gratuite
est-ce que vous
du livre?
Je suis défrustré.
Bien. Bon, voilà, et bien. Moi je remercie les participants ultérieurs de leur patience.
Donc je n'ai plus qu'à ajouter que le livre qui vient de paraître ce mois-ci de Bruno Maigret et qui s'appelle « L'autre scénario pour la France et l'Europe », on peut le commander pour 15€ plus 4€ de port. Alors là, même pour les polytechniciens, ça fait 19€ à l'ordre de édition Cité Liberté, 15 rue de Kronstadt, 75015 Paris. Je répète, 19€ port compris. Aux éditions Cité Liberté, 15 rue de Kronstadt, 75015 Paris. J'ajoute le numéro d'ISBN pour ceux qui trouvent que 4€ de port c'est beaucoup et qui ont un libraire de bonne composition. ISBN 2 91 41 60 003. Il y a un deuxième numéro d'ISBN, mais je soupçonne fort que c'est le numéro d'ISSN et que votre maquettiste a déconné, donc il faudra m'embaucher.
Non, c'est le nouveau numéro européen qui s'annonce. Ah. On s'est mis déjà à la page.
Ah, bravo. Voilà, voilà. Bravo. J'ai diffamé pour m'instruire.
Et pour finir, cette auditrice nous dit « Je félicite M. Maigret de tout ce qu'il a dit et pourtant je suis une fidèle de Jean-Marie Le Pen. » C'est le début de l'Union patriotique. Merci Bruno Maigret, cette fois-ci je vous libère.
Alors,
vraiment.
Un double merci, Serge.
J'espère que le tribunal de Marseille, Aix-en-Provence, fera la même chose dans quelques jours.
La page de publicité continue, Serge, avant que je sois noyé sous l'éloquence et la compétence de Jean-Pierre Rondeau, notre expert financier. Le Libre Journal, bon, le Marquis plaisantait tout à l'heure, pour ceux qui l'ont entendu, en prétendant que j'avais fabriqué tout seul. C'est évidemment tout à fait impossible, puisque nous avons... Jean-Pierre Rondeau en est un, plusieurs dizaines de collaborateurs bénévoles, et que j'aurais été bien incapable de faire autre chose que la mise en page de ce journal.
Mais vous êtes trop modeste.
Il est donc paru le numéro 385, le 5 septembre, et ce numéro, je dirais seulement que il est 10 pages sur 24 sont constituées par le journal d'été de François Brignot. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de compliments qu'on aurait mieux fait d'adresser à François Brignot lui-même, mais vous savez que je vends le journal à crier en toutes sortes de lieux, et j'ai eu beaucoup de compliments sur ce journal de campagne électorale de François Brignot, qui est à la fois impitoyable, extrêmement brillant. Il n'épargne personne de tous les candidats, de toutes les candidates, candidats à la candidature et tout y quanti. C'est vraiment brillantissime.
Et il y a une magnifique photo à la une de François qui
a été très belle photo.
Qui a été prise par
sa petite fille.
Par sa petite fille, oui, qui est photographe professionnelle.
Elle doit avoir 16 ans.
Bon, bah alors dis donc, elle promet. Enfin, elle est très belle, cette photo.
Je ne sais pas, je pense qu'elle est assez jeune.
On voit qu'il est en train de faire sa page d'écriture.
Voilà,
son écriture.
La plus
extraordinairement
madame.
Élégante et,
voilà.
Et française.
Dans ce numéro 385, on cite très longuement aussi un site internet qui s'appelle sénégalaisement.com et où on explique aux Sénégalais et assimilés comment s'incruster en France, comment déchirer ses papiers, comment faire passer sa troisième femme de 12 ans pour sa fille, de façon non seulement à avoir trois femmes, mais à toucher de l'argent pour ça, et comment, en cas de nécessité, épouser, je cite, je peux citer, Serge,
ah oui, c'est eux qu'ils disent.
Oui, ils disent à leurs visiteurs, aux visiteurs de leur site, épouse une vieille salope blanche. Mais là, la suite, on ne peut vraiment pas la citer à l'antenne. Comment exploiter la naïveté, enfin, eux emploient d'autres termes, et la lubricité des vieilles dames qui vont, d'après eux, faire du tourisme sexuel à Dakar et ailleurs. Ça, c'est le numéro 385. Oui, je mentionnerai quand même une double page sur le bilan de Castro, puisque lui-même, en ce moment, se préoccupe du verdict de la postérité. On a tout un historique résumé, évidemment, mais un historique quand même assez sérieux. Le numéro suivant, 387, vient de paraître. Brignot revient, mais sur deux pages seulement. Le hold-up à journée du gouvernement sur l'assurance vie, je pense qu'on va y revenir dans quelques instants, mais il y a deux pages qui sont très très précises, très détaillées, beaucoup plus détaillées que chez nos confrères de la grosse presse qui ont pourtant des moyens infiniment supérieurs aux nôtres, mais qui ont sans doute leur raison d'édulcorer un peu cette affaire de hold-up contre l'assurance vie, placement préféré des Français. Le bilan de la rêve partie du Technival à côté d'Angoulême, qui se résume à une avalanche de quoi
M point de suspension.
Mais littéralement, il semble que le site sera emmouscaillé pour des années et des années, qu'on profitera de son parfum sur l'aéroport d'Angoulême pendant des années et des années. C'est assez sensationnel que notre camarade de l'Olmeta, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, fasse une déclaration d'amour pour le musée des arts premiers.
Oui.
Alors il commence ironiquement, salut à toi, lézard premier, en s'adressant à Chirac, mais finalement il est tombé amoureux de ce musée. On n'est pas d'accord, mais bien entendu on publie quand même son article sans aucune coupe, parce qu'il a le droit de dérailler, après tout, il n'y a pas d'enjeu. Et puis il a le droit d'aimer.
Il aime Marine Le Pen et il aime le musée des arts
premiers. Voilà, après tout.
Il l'écrit librement.
Après tout, voilà, c'est pas absolument monstrueux. Voilà, on a un grand reportage tout à fait authentique et exclusif au Tibet. Bon, on a 24 pages qui sont presque entièrement rédactionnelles, sauf la publicité non payée pour lire sous les pommiers. C'est maintenant Serge.
Ah oui, il faut le dire.
Oui, voilà. Alors donc, dans le journal, comme sur cette antenne, on remercie Anne Brassier qui nous donne l'occasion de rencontrer en chair et en os nos auditeurs, notamment du Havre, de Cherbourg, de Caen. Ce sera le 1er octobre en Tronfleur et... en Tronfleur et Gaga Moumou et Deauville, voilà. Sur la départementale 513 au manoir de Blosseville, à peine de pis. Je ne le répéterai pas, enfin quelqu'un d'autre le répétera peut-être, j'espère. Donc départementale 513, on va jusqu'à, Anne Brassier va jusqu'à organiser l'accueil à l'arrivée du train qui part de Paris. Pour Trouville-Deauville, à 8h49, je ne le répéterai pas. Donc cette manifestation, évidemment il y a un abri, pique-nique tiré du sac, les consignes habituelles, de 11h à 18h. Et il est encore temps, il est grand temps, mais il est encore temps d'écrire à Anne Brassier à la radio, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris, pour demander un covoiturage. Ou un lift, ou comme... Non, il faut plus parler anglais à l'antenne.
Covoiturage, c'est mieux, là.
Pour lever le pouce, pour demander un transport en voiture, il faut vite lui écrire pour qu'elle vous trouve un chauffeur, ou pour proposer un volant. Voilà. Je parlais, mine de rien, du numéro 386 du Libre Journal. Un dernier mot sur le prochain numéro 387. Je tiens à le répéter, les Français, et y compris nos auditeurs, sont abasourdis. Je le suis moi-même, alors je sais de quoi je parle. Tous les jours depuis une semaine, de commentaires absolument ineptes, qui sont de la désinformation pure et simple, sur les propos qu'aurait tenu Benoît XVI à propos de l'islam, sur les regrets qu'il aurait émis, qu'il n'a bien entendu jamais émis, sur les excuses qu'il devrait faire. Même Monsieur Jospin
écrit noir sur blanc qu'il ne doit pas faire d'excuses en aucun cas. Alors pour ceux qui en ont assez, nous qui ne sommes pas des énergumènes et des irresponsables de la grosse presse, qui sommes des journalistes indépendants et posés et calmes, nous ne faisons pas de commentaires. Il y en a eu assez comme ça. Nous nous contentons dans le prochain numéro 387 de mettre sous les yeux des lecteurs le discours, le texte intégral du discours de Benoît XVI à Ratisbonne, sans aucun commentaire. Il y en a eu assez comme ça. Ce sera donc dans le numéro 387. Pour chacun de ces numéros, donc en spécimen, 5 euros ou de préférence un carnet de timbres.
Oui.
Pour s'abonner un an, c'est 110 euros à l'ordre de SDB, 4 place Franz Liszt, 75010, Paris. Et c'est un pari intelligent.
Et écoutez, il faut lire le Libre Journal qui donne de bons conseils, notamment là, on publie la photographie d'une carte de France, France routière kilométrique, dont la couverture indique donner, s'adresse aux automobilistes, donner la préférence aux restaurants qui comprennent le vin dans le prix du repas. Moyenne de la vie humaine, 59 ans pour un buveur d'eau, 65 ans pour un buveur de vin. 87% des centenaires sont des buveurs de vin. Le vin, c'est le lait des vieillards. Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons, signé Pasteur.
Bravo.
Et après, prenez le volant.
J'ai reçu d'un ami tout à l'heure un MP3, c'est-à-dire un petit enregistrement par Internet. C'est rouler bourré. Rouler bourré.
Voilà. Ah bah, bien.
Serge, alors, oui. Je peux encore vous dire deux messages qui reviennent sur ce qui a été dit. À propos du pape, justement. Hier soir, les membres...
On est toujours à l'antenne, pardon.
Main sur la tête.
Hier soir, les membres de l'Institut du Bon Pasteur ont tenu une magnifique réunion avec intervention de l'abbé de Tannouarn qui a bien analysé le discours du pape.
Le Donc, bon pasteur contre les mauvais bergers.
Maintenant, ils n'ont plus qu'à lire l'article la semaine prochaine, enfin le texte entier la semaine prochaine. Mais les médias ont encore sévi, parce que la façon dont ça a été présenté, l'histoire des regrets, un auditeur nous dit, aujourd'hui malheureusement, Benoît XVI vient de se déculoter devant l'islam.
Mais non, c'est faux.
Justement,
désinformation.
Ils n'ont pas bien entendu.
N'écoutez pas les énergumènes de la grosse presse. Écoutez, lisez le Libre journal indépendant, posé.
Écoutez ceux de ses représentants. Et puis alors, tout à l'heure, vous avez bien parlé, tout à l'heure, M. Goffman, de Nicole Cage et Jacqueline Fraisse. Vous avez dit les noms.
Nicole Gage et Jacqueline Fraisse, affirmatif.
Parce que là, il y a un auditeur qui est revenu plusieurs fois en disant « Mais vous ne l'avez pas dit, qu'elles avaient été victimes d'un vol à la portière.
Si, »
Donc
si.
Ça avait bien été dit, voilà.
Voilà, c'est tout.
Et voilà, c'est pour l'avenir, ça. La semaine dernière, dans cette émission, il a été dit qu'il fallait faire un choix entre la chrétienté et l'Occident. Mise en opposition. Qu'en pense Serge de Bekech? Aujourd'hui, rien, parce qu'il n'a pas le temps, mais peut-être la semaine prochaine.
Non, je ne suis pas d'accord. Mais je m'en expliquerai plus à fond dans une émission prochaine. Et d'ailleurs, oui, absolument, parce que je vais recevoir prochainement Jean-Marc Savary, qui est le fondateur et le directeur du Liber Mirabilis. Le Liber Mirabilis, on peut dire, pour simplifier, que c'est, vous comprendrez tous de quoi je parle, d'une certaine manière, l'héritier de ce qu'était Planète dans les années 60 et 70, c'est une superbe revue. Une revue qui s'occupe de choses gnostiques. Alors, on a dû ça tout oublier.
La gnose.
Et là, il y a un numéro magnifique qui est consacré à l'alchimie du château de Sennevières. C'est passionnant. Et le prochain numéro sera consacré aux légendes d'Irlande. Alors, je vous le recommande. C'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est beau. C'est d'une grande qualité. Et l'adresse, c'est Liber Mirabilis, bien sûr. Lille, L'ILLE, 11 000 Carcassonne. Et le prix du numéro, c'est 26 euros, et ça les vaut vraiment. Hein. C'est vraiment quelque chose de super. Et je recevrai donc Jean-Marc Savary, qui en est le fondateur, le directeur et l'animateur. Dans une prochaine émission, on parlera de tout ça. Quoi ?
On a trois petites annonces, après on va pouvoir...
J'en ai une minuscule.
À la fin, on va se les alterner.
Bon,
alors SOS Tout-Petit organise une prière publique de réparation, de conversion et d'intercession le samedi 23 septembre, place Saint-Michel, Paris, à 14h30. Et puis un monsieur nous dit, gros déçu de la gauche, je vais aider Radio Courtoisie, ça nous change de Radio France bolchevique. Ouais. Une annonce quand même à qui il faut donner un peu de lustre.
Oui, et je et, propose qu'on soit nombreux
et puis
à l'imiter.
Valérie Delahaye vous annonce le docteur Merlin, le jeudi 28 septembre, Jazz Manouche, le mardi 3 octobre, le Chœur Montjoie le mercredi 4 octobre, et vous pouvez vous inscrire au 01 43 35 56 64. C'est 30€ 20 compris, et vous téléphonez donc à la mère agitée.
Comme vous avez le numéro 01 43 35 54
56
56
64
64.
Et moi j'annonce pour finir donc à Serge de Bekech qu'il sera vendredi 22 septembre prochain à la tribune d'un meeting organisé pour la libération de Michel Lajoie. On n'a pas le temps de rappeler, mais la plupart de nos auditeurs savent de quoi il s'agit. Enfin, c'est encore un scandale.
Parce que c'est un homme qui
est
en prison depuis 20 ans parce qu'il a posé un gros pétard un bar turc qui a cassé une chaise. Il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien du tout. C'est un scandale judiciaire.
Alors, il allait être libéré au bout de 20 ans pour ça, mais non, c'était encore pas assez 20 ans de centrale. Donc,
il l'a écrit, ils ont refusé de le libérer parce que l'adresse qu'il avait donnée. Alors qu'il a fini sa peine, l'adresse qu'il a indiquée pour habiter quand il sortirait de prison, c'est dans un quartier où il y a beaucoup de maghrébins. Donc ils disent, cet homme qui a posé une bombe dans un bar maghrébin, on va pas l'envoyer dans un quartier maghrébin. Alors il dit, mais je suis dans une tôle où il y a 70% de maghrébins, il faut pas me laisser là-dedans, il faut me laisser sortir.
Voilà, j'annonce.
Non, on rigole, mais c'est moyen désolant. Drôle. 20 ans il a passé. Vous vous rendez compte, il est entré là-dedans, il avait 20 ans. Voilà un homme qui a 40 ans. C'est terrifiant. Enfin, il aurait violé et assassiné un enfant et ça serait pas pire.
Il serait sorti depuis longtemps, bien sûr.
C'est le pire des régimes communistes. Hein.
Ouais.
Donc j'annonce à Serge de Bekech qu'il sera vendredi 22, n'est-ce pas, prochain, à la tribune de ce meeting, à côté de ses amis Pichon de Mondévy, Gallic de Rivarol et d'autres que j'oublie et qui ne me le pardonneront jamais.
Bonivard, Odile Bonivard.
Odile Bonivard.
Animatrice de la soupe au cochon.
Donc ce meeting est à 20h, n'est-ce pas Serge, à l'ASIEM, à une salle qui s'appelle ASIEM, 16 boulevard de l'Apparent, c'est dans le 7e et c'est le métro Ségur.
C'est gentil de me prévenir.
Et puis l'auditrice qui voulait des nouvelles de Monsieur Cochet, il faut qu'elle téléphone à la radio l'après-midi, parce que nous, c'est pas notre rayon. C'est à propos d'une émission qui a déjà eu lieu.
Ah oui.
Voilà.
Bien. Alors,
Vous
êtes toujours sur Radio Courtoisie. Et enfin, on va vous demander de tirer au clair cette affaire d'assurance vie, pardon. Un auditeur nous écrit, nous téléphone, rions un peu au sujet de l'assurance vie. Bruxelles a décidé, dans une de ses directives, qu'elle sera dorénavant appelée assurance non-vie. Je ne sais pas si cette décision va faire progresser l'Europe, mais elle aura occupé pendant un certain temps quelques-uns des 40 000 fonctionnaires de Bruxelles.
Première question,
l'assurance vie, donc c'est quelque chose qui a été fait pour compléter à une époque où les retraites n'existaient pas vraiment pour des professions de type profession libérale, assureur, etc., commerçant. Et donc c'était un système qui était fait pour aider les gens à constituer leur propre tête avec de nombreux avantages fiscaux. Donc la première des choses qu'il faut faire savoir, c'est qu'il existe deux types d'assurance vie qui souvent dans l'esprit des Français a été mis sous le même mot. Pourquoi ? Parce que ça intéressait au départ certaines compagnies de faire confondre les unes et les autres. La première, c'est l'assurance décès. L'assurance décès, c'est la même assurance que vous pouvez avoir pour votre voiture ou pour votre maison. C'est-à-dire, si vous avez un pépin, elle sert. Si vous n'avez pas de pépin, elle sert à rien.
Si vous mourrez pas, vous touchez jamais rien.
Voilà.
Donc l'assurance sur la mort.
Vous cotisez à fond perdu et vous décidez que si vous décédez, eh ben, votre épouse doit toucher un capital ou vos enfants doivent toucher un capital ou une rente. Voilà. Mais chaque année, vous cotisez, vous pouvez quitter quand vous voulez et cette assurance, il faut la choisir en fonction d'une compagnie qui soit solide pour exister si vous arrivez un pépin, mais surtout en fonction des frais et de votre attente, de comparer les différentes assurances et vous choisissez la meilleure. Celle-ci est à fond perdue. L'assurance qui
s'appelle l'assurance Marie Bénard.
On pourrait l'appeler comme ça. Maintenant, il existe l'assurance vie, qui est celle qui est faite pour constituer une retraite, pour compléter une retraite, c'est-à-dire que vous cotisez donc des sommes, et ces sommes vont vous être rendues. Alors, moins, bien sûr, des frais d'entrée, moins, bien sûr, des frais de gestion.
Et on peut les léguer, non?
Et en fonction des résultats. Et cette assurance, elle est récupérable par vous à un moment donné. Qui peut être court, ça peut être immédiat au bout d'un mois en payant une fiscalité, mais elle est récupérable. Et si vous arrive de décéder, vous avez désigné des bénéficiaires qui ne sont pas obligatoirement vos héritiers, et vous avez désigné des bénéficiaires, et c'est eux qui vont toucher ce capital. Donc cette assurance-là, elle est totalement récupérable. Et c'est pourquoi je disais que à l'époque, dans les années 50, 60, ça intéressait certains, c'est qu'on confondait les deux et que le client ne savait pas ce qu'il a. Il cotisait à fonds récupérable et à fonds perdu.
Et peut-être que cet équivoque a été entretenu et que ça explique pourquoi des brillants intellectuels comme Serge de Beckett et moi-même il y a quelques jours, en préparant cette émission, on s'est regardé d'un air consterné et on s'est dit, mais on est vraiment deux abrutis, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est que l'assurance vie, mais on ne doit pas être les seuls.
Non, mais il y a une confusion qui a été entretenue absolument volontairement, c'est évident. Même le terme assurance convient pas à ce qu'il rentre.
Alors, d'ailleurs, et tout ce système a été un peu cassé, je n'interviendrai pas ici, mais par un contrat notamment. Notamment le contrat à faire dont on a beaucoup parlé avec un scandale de détournement soi-disant de fonds, etc. Je n'en parlerai pas ici, mais s'il fallait en parler un jour ou si des auditeurs voulaient avoir des renseignements, j'en parlerai.
Mais comment se fait, Jean-Pierre Rondeau, que ce placement soit le placement préféré des Français?
C'est le placement des préférés des Français pour des tas de raisons. Pour moi, et pas pour les Français, mais pour moi, c'est le placement, je dirais, entre guillemets, universel. Au sens, je parle des produits financiers uniquement. Je ne parle pas de rentrée de l'immobilier, je ne parle pas d'autres placements. Mais quand on a envie d'avoir des gestions de type action, obligation et monétaire, ou un produit garanti de type comme on avait avant le plan épargne logement ou quoi, c'est-à-dire un placement en toute sécurité, on peut le faire à travers un contrat d'assurance vie qui est en plus un avantage fiscal, rogné de plus en plus par l'État, mais qui est un avantage fiscal et qui permet aussi la transmission à des enfants dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est voilà pourquoi je suis un conseiller général de patrimoine, mais pourquoi souvent je parle d'assurance vie avec mes clients. Pourquoi pour les Français c'est aussi cela? C'est parce que donc pour les mêmes raisons que moi, mais en plus longtemps pendant les époques où les marchés boursiers étaient pas bons, il y a eu une période d'environ presque 15 années, c'était les années d'inflation où les taux montaient, etc. On a souscrit dans les contrats d'assurance un placement qui était garanti, un capital garanti par la compagnie, capital garanti, un taux d'intérêt minimum garanti, et donc c'était un placement en toute sécurité qui rapportait, parce que les taux à l'époque étaient relativement élevés, l'inflation était élevée, donc les taux de l'argent, des loyers de l'argent long terme, etc. étaient élevés, et donc on avait un placement en toute sécurité qui était plutôt bien rémunéré et qui reste à l'heure actuelle pour la sécurité un placement intéressant. Il est qu'à 4%, mais quand on sait qu'on a, alors bien sûr on peut discuter sur les chiffres officiels ou pas de l'inflation, mais même si on considère que l'inflation n'est pas à 2 mais plutôt à 4, eh bien en tout cas on protège son patrimoine en ayant en toute sécurité un placement avec quelques avantages fiscaux et avec la possibilité aussi de transmettre de façon intéressante.
Comment expliquez-vous, parce que ça, moi, je comprends, à ma grande surprise, mais je comprends. Comment expliquez-vous qu'il y ait des gens, y compris dans certaines émissions de cette radio, qui manifestent un tel rejet, vous avez dit, obsessionnel de cette solution, qui est une solution de père de famille, on peut dire de bon sens et de sans risque et sans...
Si vous voulez, je me suis élevé depuis 2003 contre cette attitude justement sur cette radio, dans la mesure où, vous le savez, étant passé dans votre émission à deux ou trois reprises, pour parler finance, je parle, étant passé dans des émissions amies, y compris avec le midi, avec les deux amis qui tenaient le midi, j'ai ouvert que, enfin, j'ai quelques personnes qui sont venues me voir, qui sont des auditeurs ou auditrices de Radio Courtoisie. Et donc, j'ai pu constater le mal qui était fait à des gens qui étaient des auditeurs, donc, qui étaient censés être des amis, parce qu'ils avaient tendance à écouter une parole qui leur était donnée, leur disant que la catastrophe allait arriver. Alors, pourquoi, sur quoi repose l'argumentation? C'est que dans les contrats d'assurance, aujourd'hui, il existe deux parties de contrats d'assurance. Il existe soit des unités de compte, qui sont l'équivalent des SICAV que l'on peut avoir à sa banque, ou soit le placement garanti dont je parlais tout à l'heure, avec un capital garanti par la compagnie et un minimum garanti. Il faut savoir que la compagnie, avec l'argent donc que lui confient les clients, va acheter des actions, va acheter un peu d'immobilier, mais va surtout acheter des emprunts, c'est-à-dire des obligations, dont des obligations d'État, et donc ce qu'on appelle les OAT, donc des emprunts d'État. À partir du moment où les personnes qui interviennent sur cette radio ont une haine totale de l'État et annoncent tous les jours la catastrophe économique et la future situation à l'Argentine, on passe très vite à la démolition de la dette de l'État et très vite à la démolition des obligations.
Oh. Mais vous, l'hypothèse argentine ne vous convainc pas?
L'hypothèse argentine peut arriver, il est évident, mais il faut être clair avec les gens et surtout quand ces gens sont ses amis et sont ses auditeurs. Les contrats d'assurance aujourd'hui sont constitués pour une grande partie d'unités de compte, d'abord. C'est-à-dire donc de SICAV qui ne sont pas obligataires, mais qui peuvent être des SICAV actions, qui peuvent être d'autres SICAV. D'autre part, donc, il reste la partie garantie de ces contrats. Et dans cette partie garantie de ces contrats, j'ai dit tout à l'heure, il doit avoir environ à peu près 15% d'immobilier et d'actions, et ça peut aller jusqu'à 20%. Donc, on ne parle plus d'emprunt d'État. Reste, disons, 80% d'obligations qui sont mises dans ces contrats. Ces obligations, ce sont soit des emprunts d'État, soit des obligations privées, c'est-à-dire des entreprises que on peut acheter comme Carrefour ou autre, qui empruntent au lieu d'emprunter aux banquiers, au lieu d'emprunter essentiellement aux banquiers, vont emprunter auprès du public et elles vont émettre des obligations. Donc 40%, donc 80%, la moitié, c'est-à-dire 40% ne sont pas des emprunts d'État. Et dans les 40% qui restent, les emprunts qui restent d'État, il y a aujourd'hui des emprunts européens. C'est-à-dire que on n'a plus de risque aujourd'hui à travers l'euro de risque de change, et donc les assureurs mettent aujourd'hui à l'intérieur des... Donc,
alors, en disant ça, Jean-Pierre Rondeau, vous répondez à deux questions qui étaient posées, une par une auditrice, que M. Rondeau ne mette pas de parler de ce qui se passerait en cas de faillite de l'État pour cette assurance retraite, et vous venez de répondre que la faillite de l'État n'engagerait en quelque sorte que...
Que cette partie, puisque de l'autre partie seraient des emprunts d'État étrangers, voilà, ou des emprunts de sociétés privées, ou des actions, ou des produits immobiliers. Et maintenant, comme je vous l'ai dit dans l'article, et on en parle avec vous, je pense que la situation j'ai vécu en Seine-Saint-Denis, vous le savez, la situation de la France est très mauvaise. Je le pense sincèrement. Vous m'avez donc posé la question, je réponds très sincèrement. Et je sais aussi que le ciel peut nous tomber sur la tête. On peut vivre toute sa vie en attendant la catastrophe, hein. Donc je sais aussi que le ciel et la situation à l'Argentine pourraient nous arriver. Mais si ces deux personnes qui interviennent sur cette radio y croyaient, elle devrait dire aux gens, foutez le camp.
Mais
pas seulement foutez le camp, comme elles le disent, en emmenant votre argent au Luxembourg, parce qu'au Luxembourg, on va les remettre en obligations, dont des obligations d'État français, hein, et sans la garantie des contrats d'assurance, parce que la garantie des contrats d'assurance, c'est à peu près le seul pays où il reste cette garantie sur la partie, donc, garantie. Hein. Donc, on va les remettre. En plus, que vont faire les vieux auditeurs? Parce que ils ébranlent des tas de vieilles personnes sur cette radio. Et c'est une catastrophe. Les gens m'appellent, lendemain pour me dire, mais monsieur Rondeau, c'est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et vous voyez nos braves personnes partir avec des valises demain, parce qu'il ne faudra pas partir avec un virement, parce que l'État le saura et dira, monsieur, ramenez votre argent. Oui. Donc il faut. Mais si on croit à la catastrophe, si l'État demain est ruiné, croyez-vous que les sociétés françaises, les actions françaises ne vont pas avoir de problème? Croyez-vous que l'immobilier aura une valeur, ne sera pas décoté? Croyez-vous qu'il n'y aura pas une catastrophe qui touchera tout le truc? Mais si on y croit, foutez le camp.
Ouais,
foutez le camp, partez avec votre argent et partez physiquement. Si vous n'y croyez pas, eh bien...
Si vous n'y croyez pas, c'est pour partir.
En tout cas, c'est, je vous dis, sur la partie en plus, donc sur la partie garantie, alors les compagnies, bien sûr, risqueraient de faire faillite si l'État faisait faillite, ouais. Mais en tout cas, il y a une garantie par la compagnie, c'est-à-dire que vous n'avez pas acheté des obligations à l'État français, c'est la compagnie qui a acheté des obligations à l'État français, et elle se sert des loyers des obligations, des intérêts payés par l'État ou payés par des sociétés privées, pour payer le revenu du contrat. Mais vous n'êtes pas propriétaire d'État français. Donc ça veut dire que si demain la grande faillite dont on parle existait, eh bien tout, il n'y a plus une seule compagnie d'assurance, il y a les trois quarts des sociétés françaises qui disparaissent. Et je voudrais dire deux mots, c'est que les émissions d'emprunts d'État aujourd'hui, et c'est un papier de la Banque de France de mai 2006 que je tiens à la disposition de tous les auditeurs, les émissions donc sont en grande partie souscrites par les non-résidents qui détiennent désormais 49,70%, c'est-à-dire 50%, la moitié de l'encours global d'OAT, c'est-à-dire des emprunts d'État. 50% des non-résidents, c'est-à-dire des étrangers, détiennent les emprunts qu'on nous demande. Alors, il faut penser que les banquiers, les gérants luxembourgeois, allemands, américains, chinois et notamment les princes arabes, les sociétés de gestion de retraite américaines, les fonds de pension américains, c'est des fous. C'est des fous, puisque...
On se pose la question quand, par exemple, trois fonds de pension nord-américains achètent 60%, acquièrent 60% du capital du PSG, dont toute la France sait que c'est...
Oui, mais on est sur un problème, je dirais, qui ressemble plus aux actions qu'aux obligations.
Ouais.
Acheter des obligations, c'est acheter une dette. C'est-à-dire, c'est prêter de l'argent à quelqu'un et recevoir en échange des intérêts. Être actionnaire du PSG ou actionnaire de Carrefour... C'est participer à la vie de la société. Et reste du monde reste toutefois le premier acquéreur d'obligations émises par des résidents. Donc ça veut dire que non seulement les emprunts d'État français, mais même les emprunts de sociétés privées dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut acheter, ce qu'on appelle obligations, sont achetés essentiellement par des non-résidents, c'est-à-dire par des étrangers. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Alors je pense que vous avez rassuré votre co-naturel, monsieur Julien, qui signe un oranais, Julien, et qui nous disait, dans le prolongement des émissions qui ont trait à l'économie et compte tenu du déficit actuel de l'État français, l'assurance vie ne serait-elle pas une assurance pour grand bêta? Et il met entre parenthèses pour le cas on n'aurait pas compris, c'est-à-dire pour grand con, la promesse d'un effacement de leur investissement comme une cire au souffle d'un brasier, pour reprendre une citation de Victor Hugo. Et vous venez de nous démontrer
si
que non.
Pas, d'ailleurs, si on veut pas de ces obligations, qu'est-ce qu'on a? On a du monétaire. Le monétaire, c'est exactement c'est des emprunts à court terme, mais faits par les mêmes sociétés, y compris par l'État. D'ailleurs, vous allez avoir des livrets de caisse d'épargne. Et si l'État fait faillite, que voudront les livrets de caisse d'épargne? Que voudront les codevis dans votre banque?
Et si vous avez des lingots dans votre coffre et que ils mettent deux flics devant la porte de la banque en disant pas question de vider votre coffre, comme ça s'est passé en Argentine.
Et puis acheter que des lingots, on a connu une période où le lingot est passé de 100 000 francs à 40 000. Hein,
mais alors, ces vieilles personnes que vous avez évoquées tout à l'heure, qui nous écoutent nombreuses et qui essayent d'être des épargnants prudents pour sauvegarder le fruit d'une vie de labeur et transmettre quelque chose à leurs enfants, est-ce que l'État lui-même, garant en principe de leur épargne, les rassure en pillant les plans d'épargne logement l'année dernière et en nous annonçant le 6 septembre dernier qu'on va piller de la même manière leur placement préféré, l'assurance
Alors,
vie.
C'est
des ignorants comme nous, là, les brillants littéraires, là, Serge et moi, on se dit, d'ailleurs, on a mis dans le chapeau de votre article dans le Libre Journal, on a écrit « bande d'abrutis ». Alors, est-ce que c'est une bande d'abrutis ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Non, c'est une bande d'abrutis qui se tire d'un coup de fusil dans le pied, ce que j'ai écrit d'ailleurs. parce que mon article, effectivement, comprenait deux parties. J'ai voulu dénoncer le hold-up de l'État que voulait faire donc l'État sur l'assurance vie, et et en même temps, ça m'a conduit à reparler de cette affaire des auditeurs de Radio Courtoisie, dont je dis certains ont été conduits à casser bêtement leur contrat d'assurance sans avoir eu un entretien avec quelqu'un, et après, pour être prêt à n'importe quel placement. Bon. Mais le hold-up donc de l'État, c'est que
j'ai vu du bleu,
l'État qui a besoin d'argent pour financer la sécurité sociale. Je l'ai dit tout à l'heure, dans l'assurance vie, il y a deux types de ce qu'on appelle des supports. On peut investir dans deux types de choses. Des unités de compte, qui sont des SICAV, actions monétaires, etc., ou obligataires, ou même un peu d'immobilier à travers des SCPI. Et on peut avoir ces produits qui sont garantis. Hein. Or, il existe deux types de contrats. Il existe des contrats monosupports qui n'avaient que la partie garantie. Et il existe depuis quelques années des contrats multisupports qui ont la partie garantie plus les différentes unités de compte dont je parle.
Et qu'on incite à
le monosupport, quand ils ont inventé la CSG pour contourner l'impôt, puisque l'assurance vie était sans impôt, on a inventé des impôts qui ne s'appellent pas impôts, c'est la CSG, la RDS, etc., la contribution sociale généralisée. Donc on a créé des impôts. On l'a appliqué au contrat qui était monosupport, avec totalement garantie. Et on ne l'a pas appliqué au contrat qui était multi-support, dans la mesure où c'était assez compliqué pour les compagnies de calculer les trucs. Donc la CSG ne devait être appliquée qu'à l'issue, c'est-à-dire quand le client cassait son contrat. Et un client qui décède, son héritier, son bénéficiaire, bénéficiait donc des sommes placées sans avoir jamais payé la CSG et la RDS, etc. Eh bien, l'État s'est dit que ça serait sympa, et notamment parce que on ne sait jamais, si la gauche arrivait au pouvoir, il vaudrait mieux piquer l'argent tout de suite. Donc ils ont décidé de faire payer immédiatement les gens. Donc comme ils l'ont fait l'année dernière, effectivement, avec les plans épargne logement, c'est-à-dire à partir de l'instant T, tout le monde paiera la RDS et la CSG. À la limite, on pourrait dire, bon, ben après tout, c'est normal. Mais ce qu'il y avait de scandaleux, c'est qu'il y a quelques mois, l'État, pour promouvoir les actions françaises et européennes, avait proposé ce qu'on appelle, c'était breton, et ce qu'on appelle l'amendement Fourgousse, qui était que si les gens de ces contrats monosupports à taux garanti acceptaient de mettre 20% d'actions dans leur contrat, leur contrat monosupport était transformé en multisupport. C'est-à-dire que leur contrat qui subissait la CSG, la RDS, etc., ne la subirait plus puisqu'il devenait multisupport. Donc on a poussé des gens qui avaient des contrats depuis 20 ans, 30 ans, des gens qui étaient peut-être à l'instant de leur mort, à basculer d'un produit totalement garanti vers un produit à 20% action avec du risque, en leur disant, eh ben, ça vous évite la RDS. Et pendant l'été, eh ben, tout d'un coup, on leur mettait la RDS sur le contrat dans lequel ils étaient rentrés. Et c'est ça le hold-up et le scandale. Bon, donc
voilà, on n'abuse pas des mots quand on parle de hold-up à la une du Libre Journal.
Je dis que c'est hold-up parce que l'article que j'ai fait en deux parties chez vous pour parler à la fois de ce que je trouve scandaleux au niveau de la radio et du hold-up de l'État, ben je l'ai fait sous une autre forme, bien entendu, de rédactionnel, mais je l'ai fait pour écrire à des députés, pour écrire à des trucs, comme l'ont fait d'ailleurs beaucoup de compagnies d'assurance dans l'affaire dont je citais. Oui. Et finalement, l'État est revenu en marche arrière. Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être pour l'instant. Mais en tout cas, pour l'instant, il est revenu en marche arrière.
Vous écoutez Radio Courtoisie et vous écoutez les explications de Jean-Pierre Rondeau, qui est professionnellement un expert financier indépendant, qui nous fait vraiment
Si vous voulez mieux me connaître, vous pouvez acheter ce mois-ci le revenu, hein, le mensuel du revenu, où vous verrez quelques-unes de mes fonctions que je préfère ne pas citer ici. Et puis vous pouvez acheter l'argus de l'assurance.
Elles ne sont pas déshonorantes du tout, mais elles ont un caractère officiel.
Je ne veux pas donner, mélanger. Voilà.
On peut vous envoyer un courrier électronique aussi à. Vous cachez l'adresse là, mais je crois que c'est
@megarafinance, megarafinance, tout collé, .fr.
Pourquoi Mégara? Les faubourgs de Mégara?
C'était un Mégara faubourg de Carthage. Certains considèrent que c'est la plus belle phrase de la langue française, mais il faudrait que ce soit notre ami qui...
Il faudrait la gueuler, vous savez, que dans son gueuloir. Voilà.
Mais il y a plein de... L'histoire de Mégara est très intéressante. C'est à cause de Mégara... J'ai une minute? Vous me laissez une minute?
Je pense que Pierre Lance
Hercule avait été marié à Mégara parce qu'elle avait, il avait sauvé une ville. Et quand il est parti à une autre guerre, la déesse Héra lui a dit ne tue pas mon ennemi, ce type, c'est mon protégé. Et Hercule est passé outre, il a tué le protégé d'Héra. Quand Hercule est revenu, Héra l'a rendu fou. Et quand il a vu, il est arrivé près de la ville, ses trois enfants plus sa femme ont couru vers lui. Il a tué ses enfants et sa femme. Et quand il s'est réveillé, il voulait se suicider. On lui a dit tu es un demi-dieu, tu peux pas mourir. Mais va voir les oracles, enfin, et c'est comme ça qu'on lui a donné les travaux.
Les travaux.
Et Mégara était une ville très riche en Athènes, et c'est elle qui a créé des comptoirs un peu partout. Et on pense que c'est elle qui a créé, enfin, il y a deux écoles, mais qui a créé Constantinople. Et il y a Mégara en Asie, mais il y a aussi Mégara, faubourg de Carthage, c'est-à-dire une petite ville près de.
Voilà. On voit pointer là-dessous vos ambitions secrètes, Jean-Pierre devenir le maître du monde méditerranéen. Voilà.
Mais en définitive, un dernier mot, vous conseillez de conserver.
Je conseille de demander conseil. Si vous voulez, la pire des questions, j'ai souvent dit, c'est pas de me dire quel est le bon placement ou le mauvais. Chaque client, et c'est pour ça que c'est une catastrophe quand à la radio on dit cassez ça ou faites ça, c'est une catastrophe. La pire des choses, c'est de ne pas comprendre quels sont les besoins de la personne, ce qu'elle a, les impôts qu'elle paye, si elle veut aider ses enfants, etc.
Le nom précis de votre métier, c'est conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Mais j'étais banquier et directeur dans deux sociétés de bourse pendant longtemps.
Et si je puis me permettre d'ajouter un mot, je suis moi-même membre de l'affaire, très content de l'être, depuis un certain nombre d'années.
Un témoignage. Merci. Alors, Jean-Pierre, c'est convenu, vous venez participer à notre feu de camp du mercredi soir en première partie, puis même en deuxième.
Oui, j'aimerais bien parler de ce qui se passe la prochaine fois dans les mouvements pieds noirs.
Oui, on parlera de ça, puis on parlera
de la guerre nous fait la Ligue des droits de l'homme, etc.
On parlera sans doute de M. Mekachera,
voilà.
Homme digne d'intérêt.
Le M. Bouteflika, on n'en parlera pas.
On dira encore des grossièretés contre lui. Ça, ne vous inquiétez pas, nous avons la vie devant nous. Ce qui ne veut rien dire, d'ailleurs, parce que. Merci encore, Jean-Pierre Rondeau. On a donné l'adresse,
jprondeau@megarafinance.fr.
Et j'ai oublié peut-être le téléphone, 01 44 51 62 20.
Répétez parce que...
01 44 51 62 20.
Voilà. Mais il y a la finance avec un S ou vous...
Sans S. Trouvais que ça faisait plus riche, la grande finance.
Non, mais parce que comme il suffit d'une lettre manquante pour que ça ne passe pas.
Eh bien, les savetiers vous remercient, monsieur le financier.
C'est joliment dit. On sent qu'il est cultivé, il est en sous ses dorés un peu frustre.
Frustre.
Eh bien, si j'ai envie de dire frustre, je dirais frustre.
Je ne suis pas frustré.
Parce que tout à l'heure, était frustré, voilà. Victoria.
Je suis un rustre frustre.
Pierre Lance, alors, vous savez que quand vous venez dans cette émission, ça provoque des cataclysmes intérieurs, extérieurs, périphériques et arrondis. Les gens mélangent tout. Alors, ils me disent, mais ils ne croient pas en Dieu. Je dis, je ne l'ai pas invité pour parler de ça, je l'ai invité pour parler du sujet qu'il maîtrise.
Mais je suis un spiritualiste, je précise toujours.
Oui, mais ça, c'est encore pire. Alors, vous savez, ça, bon. Alors, donc, vous venez de publier... Enfin, vous avez publié tout récemment le troisième volume de la série, passionnante et alors politiquement importante, politiquement importante.
Je suis tout à fait de cet avis.
Savant
maudit.
Maudit, chercheur exclu, qui est une espèce d'annuaire, non pas seulement des savants fous, des savants oubliés ou des savants négligés, mais qui est plutôt une espèce de comment dirais-je, de guide pour comprendre les mécanismes extraordinairement vicieux qui animent notre société.
Tout à fait. Et qu'ils sont de plus en plus, hélas. Surtout dans ce domaine de la santé.
C'est fondé... Enfin, on en a une preuve définitive avec l'histoire... Pardon. Du cancer, où le docteur, j'ai peur de me faire une faute dans son nom, Genet, c'est ça ? avait annoncé que pour limiter le nombre des cancers, il suffisait
André Gernèse.
Gernèse, voilà. Mmh. Il suffisait de modifier son alimentation en mangeant des fruits et des légumes et des choupiards.
Beaucoup l'ont dit d'ailleurs.
Et en prenant également un produit qui était un produit qui calmait les bébés quand ils faisaient leurs dents. Bon. Et quand il a fait son rapport à l'académie, il a été approuvé en secret, mais publiquement on l'a dénoncé comme un charlatan et un jean-foutre. Et il a eu l'explication de tout ça à la suite d'une réunion qui a eu lieu au ministère de la Santé avec les plus grands pontes de la santé officielle en France, qui ont déclaré, dont le plus grand de tous les plus grands pontes a dit, mais si on fait ça, c'est une catastrophe économique terrible, parce que dans 40 ans, les hôpitaux seront vides et les caisses de retraite seront ruinées. C'est quand même extraordinaire. Supprimer le cancer, vous videz les hôpitaux, vous ruinez les caisses de retraite. Si vous videz les hôpitaux, vous allez faire naturellement des milliers de
chômeurs. On déstabilise l'économie puisqu'elle tourne presque tout entière autour de la maladie et non pas de la santé.
Alors chaque fois que je lis vos livres, je repense à cette histoire qui est terrifiante en même temps, parce que ces gens-là détenaient le pouvoir politique et ils ont bloqué la procédure. Ils sont donc responsables de dizaines de milliers, peut-être de centaines de milliers de morts qui auraient pu être épargnés par la maladie ou sauvés. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez fait le tour de...
Ah non,
non
je peux faire 10 volumes,
ah oui.
20 peut-être, c'est
inépuisable. C'est tous les domaines, hein. On parle de la
c'est
santé.
C'est tous les domaines. J'ai mis une priorité sur ce qui concerne la santé, car chacun de nous est concerné par cela. Mais j'ai introduit aussi un certain nombre de ces savants, de ces découvreurs, dans des domaines comme l'énergie, comme les transports, pour bien montrer que c'est tout un système qui, en fait, confisque notre liberté sur des domaines extrêmement importants.
Surtout au profit d'intérêts strictement financiers.
Alors, je dirais que c'est un peu plus nuancé que ça. On parle toujours de la corruption par l'argent, mais il y a beaucoup d'autres corruptions. Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. À partir du moment où il y a ce qu'on peut appeler, en l'occurrence, un système dominant, alors il y a le conformisme, l'opportunisme, les soucis de carrière, la vanité, qui est tout de même très importante dans les comportements humains, et tout ça fait, alors bien entendu, la désinformation, l'ignorance de certains qui, de bonne foi, suivent ce qu'on leur dit, et vous arrivez à une sorte de béton qui paralyse littéralement la société. Et quand vous arrivez comme un chien dans un jeu de quilles en disant tout simplement la vérité, alors là, évidemment, c'est le tollé général. Bon, la vérité, ça ne passe pas. La vérité dérange beaucoup trop de monde pour qu'elle soit acceptée d'emblée.
Quel est selon vous, après trois volumes, le personnage le plus exemplaire?
Oh, j'en ai plusieurs. C'est très... Alors là, vous me posez vraiment un cas de conscience. Alors, vous avez parlé de Loïc Le Ribaud, ça, c'est évidemment. Mais il y a aussi Antoine Prioré, qui est le cas tout à fait exemplaire sur le plan du processus. J'ai d'ailleurs, dans le chapitre qui lui est consacré dans mon premier tome, j'ai donné la chronologie. Voilà, un homme qui s'est battu toute sa vie, qui a été soutenu par des universitaires de Bordeaux, qui a été soutenu par Jacques Chaban-Delmas, dont en fin de compte le projet est arrivé sur le bureau de Giscard d'Estaing, malheureusement quelques semaines avant le mai 1981. L'amiral Emery, qui était le conseiller scientifique de l'Élysée, a mis ça sur le bureau de Giscard en lui disant « Mais ça, je crois que c'est l'affaire scientifique du siècle, il faut absolument faire examiner ça. » Et il avait une excellente idée, l'amiral Emery, c'est de faire contrôler tout ça par les services de l'armée, et non pas par les académies, etc. Donc, voilà. Et puis alors, François Mitterrand a été élu, paf, tout le truc est passé à la trappe, pas complètement cependant, parce que bon, les gens qui soutenaient a priori sont quand même revenus à la charge avec le nouveau gouvernement, et notamment Jean-Pierre Chevènement qui avait été ministre de la Recherche dans le premier gouvernement, celui de Mauroy. Et Jean-Pierre Chevènement a dit, bon, on va examiner ça, mais il s'est reporté, alors comme toujours les hommes, presque toujours les hommes politiques, comme ils sont la plupart du temps ignorants de toutes les choses dont ils doivent traiter, s'en remettent aux experts, en oubliant que les experts en question sont rarement indépendants, et Chevènement s'est tourné vers les mandarins, et les mandarins qui avaient déjà tout fait pour étouffer cette affaire se sont régalés, et on n'a plus entendu parler de rien. Il a fallu 2 ans pour que l'universitaire bordelais, dont le nom m'échappe, obtienne le rapport sur cette affaire, pour obtenir vraiment de l'État. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu 2 ans pour qu'il l'obtienne, et là, il s'est aperçu que le rapport de l'Académie de médecine, d'abord, était tronqué des principaux résultats, enfin, c'était un rapport truqué, disons le mot, et quand il a ramené ça à Antoine Prioré, il est mort quelques semaines plus tard, après toute une vie de combat. Je crois que c'est l'affaire la plus exemplaire, parce que, si vous voulez, ça a failli réussir. Et ce qui est aussi exemplaire dans cette affaire, c'est que les gens qui ont soutenu Prioré voulaient absolument, il faut que vous obteniez la reconnaissance scientifique. Et Prioré n'y croyait pas. Il disait, comment, moi, je ne suis pas médecin, je suis un ingénieur électricien, de surcroît italien, car bien qu'étant un Français d'adoption, il avait tenu à garder sa nationalité italienne, ce dont je le félicite à titre posthume. Et il avait dit, mais écoutez, ma machine fonctionne, elle guérit les gens, on l'appelait la machine anti-cancer. Fabriquons la machine, j'ai des tas de demandes, j'ai des médecins qui sont prêts à l'acheter. J'ai pas besoin de la caution, de l'Académie de médecine, de quoi que ce soit, je n'en ai pas besoin.
Mais toute proportion gardée, et je dis bien toute proportion gardée, ce genre de sujet me fait penser à une affaire dont on va parler dans un prochain numéro du Libre Journal, qui est l'affaire du purin d'ortie.
Ah oui, alors, tout à fait.
Ça, c'est tout à fait étonnant.
Tout à fait.
Il y a un décret qui a été pris, comme ça, à l'insu de mon plein gré, personne s'en est aperçu, et qui dit simplement qu'il est interdit de fabriquer, de mettre à disposition, de vendre, de recommander des produits phytosanitaires, ou les produits plutôt agricoles, qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché. Bon. Moyennant quoi, depuis
des siècles,
on fait du purin d'ortie.
Tout à fait. Et combien d'autres produits?
Mais ça, ouais. Le purin d'ortie, c'est tout à fait spécial, parce que il suffit de couper du purin, enfin des orties, et de les mettre dans l'eau, et puis d'attendre un certain temps. Quand ça fait plus de bulles, c'est du purin d'ortie, et c'est un truc formidable contre les pucerons, les mouches, les parasites en général, etc. Et donc, il y a un type qui, lui, il fabrique son purin d'ortie, il en donne à ses voisins, et un beau jour, il voit arriver chez lui deux flics, de je ne sais quelle administration, qui lui saisissent tout son matériel, qui détruisent ses stocks, et qui le traînent devant les tribunaux, sous menace de, je ne sais pas combien, mais c'est hallucinant, c'est 5 millions d'euros d'amende, 2 ans de prison ferme, etc. Parce qu'il a recommandé, il a dit à ses voisins, vous devriez utiliser du purin d'ortie, en application de cette loi.
Alors, ce que vous dites là, Serge, ça s'inscrit dans justement quelque chose que je tiens à dénoncer ce soir, parce que c'est en train de se mettre en place par différents canaux. Oui. Alors il y a celui-là, il y en a un autre qui est extrêmement grave.
Cocopelli.
Bien sûr. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement grave, qui porte atteinte dans notre pays à la liberté de la presse. Comme vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, pour bénéficier des réductions fiscales et de tarifs postaux, il faut qu'un journal soit inscrit à la commission paritaire de la presse, la CPPAP, qui, en fonction d'un certain nombre de critères qui ont été définis il y a fort longtemps, décide que tel journal est en effet d'intérêt général et peut avoir cette inscription. Et depuis quelque temps, on élimine systématiquement les journaux qui parlent de santé, mais de santé, des santé naturelles, des médecines alternatives, tout ça. Bon, nous avons notamment, Pratique de santé d'Alain Dumay, qui a été sous différents titres. Alors, par ruse, il a réussi petit à petit, en créant un nouveau titre, à réussir à conserver sa commission. On vient encore de lui faire sauter. Et également la revue Nexus, qui peut être une revue internationale, mais dont l'édition française a bien perdre son numéro d'inscription à la commission paritaire. Mais ce qui est effarant, les motifs tels qu'il est invoqué, c'est que il faut qu'un journal soit d'intérêt général.
C'est ça.
Exemple, l'Humanité, Libération.
Mais je ne plaisante pas. Monsieur Donnedieu de Vabre, qu'on évoquait tout à l'heure, s'est rendu au dîner festif de l'humanité il y a quelques jours pour y déclarer que l'effort exceptionnel de plusieurs centaines de millions d'euros, plus 30% qui a été réalisé pour soutenir uniquement ces journaux-là l'an dernier, serait reconduit cette année. Par qui ? Par les contribuables. Donc, quelles que soient vos opinions, vous financez avec vos impôts les journaux choisis par le gouvernement, tel, dans le cadre du pluralisme, tel que Libération, l'Humanité.
Et que font les écologistes dans un cas comme le Purin ou...
Parce eh ben, ils s'écrasent. Pourquoi? Ils s'écrasent parce qu'ils participent à la gabelle.
Non, mais je pense qu'il va y avoir quand même.
Politique,
pas. Oui, les écolos politisés.
L'histoire de Copelli, ce genre de choses. Il est interdit maintenant, à la suite d'un décret qui a été pris comme ça, de conserver les semences d'une année sur l'autre, et de réensemencer son champ, ses cultures, avec les fruits de la récolte précédente. Et puis, il faut avoir l'autorisation. Il faut acheter des semences qui sont enregistrées. Alors tout ça, c'est au nom toujours de la sécurité. C'est ce que j'ai appelé récemment le totalitarisme sécuritaire.
Tout à fait.
Au nom de ça, on peut faire n'importe quoi.
On a bien fait de couper la tête des rois, dites donc.
Oui, évidemment. Le résultat, c'est que il y a des centaines et des centaines de produits divers, de fruits, de légumes, exact, qui disparaissent. Parce que on interdit de garder les semences et de les replanter. Alors, à terme, étant donné que, j'explique que c'est dangereux, c'est pas dangereux du tout, puisqu'on en bouffe depuis des siècles.
Bien sûr.
Mais en revanche, les forêts, je signale aux Français qui vont être terrorisés de la prendre, que les forêts sont pleines de champignons vénéneux, que les champs sont pleins de baies, d'herbes à sucre, des choses comme ça, qui sont extrêmement mauvaises. Il y a même des chiens qui en meurent parfois d'avoir pissé dessus. Et donc, il faut envoyer voilà un truc pour occuper les chômeurs, tiens, par exemple, hein. Ouais. 3 millions de types avec des bêches pour détruire absolument toutes les cultures qui se présentent à risque. Et tout ça se passe dans le plus grand secret, dans la discrétion, personne n'en parle, etc. Ouais. L'association Cocopelli est poursuivie et persécutée parce que elle met à la disposition des jardiniers privés, membres de l'association, des graines qui ne sont pas vendus par les grainetiers officiels.
Alors, pour en revenir à cette question concernant la presse, parce que c'est extrêmement important, je rappelle tout de même que le tarif postal préférentiel des périodiques date de 1794. C'est pas tout à fait nouveau. Donc, un de nos auditeurs nous signale que le professeur universitaire qui soutenait Antoine Prioré, c'est le professeur Potrizel. Voilà, justice est rendue à cet homme malheureusement décédé qui s'est battu beaucoup pour la machine Prioré. Donc, cette question concernant la liberté de la presse est extrêmement grave parce que la commission paritaire dans ses motifs déclare que, étant donné que les thèses défendues par tel ou tel journal, en l'occurrence Nexus ou Pratique de Santé, il y en a sans doute d'autres, ne se réfèrent pas aux preuves scientifiques, officielles, qui ont trait, et que par conséquent, elles n'ont pas d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut plus rien critiquer, c'est-à-dire que l'idéologie dominante doit être respectée, que tous les gens qui publient un journal... Alors, j'ai des inquiétudes pour le libre journal, parce que...
Si je comprends bien, par contre, l'idéologie véhiculée par l'humanité, style Staline fait lever le soleil...
C'est scientifique.
Etc. Ça, c'est scientifique, et c'est dans l'intérêt général.
Dialectique.
Et il faut donc que l'État lui verse des millions d'euros tous les ans.
En revanche, tous les journaux catholiques devraient perdre la commission paritaire, puisqu'ils partent du principe que Dieu existe, ce qui n'est pas prouvable par, par les outils de la raison, comme essaye de le discuter avec quelle intelligence et quel talent notre bon pape Benoît XVI. Et donc, à ce moment-là, ça devient une occasion d'en finir avec toute une partie de la presse, comme la presse nationale ou la presse de droite.
Rappelons que Présent a non seulement s'est vu refuser son aide aux journaux à faible revenu publicitaire, mais on lui a infligé une amende.
Une amende pour l'avoir demandé, oui.
Pour recours abusif.
Encore mieux. Bon, alors, pour revenir à ce troisième tome, donc... Alors, la démarche, bon, ça, les auditeurs qui ont déjà nous ont entendus sur les deux premiers le savent, c'est que la démarche que j'ai choisie, parce qu'il fallait, choisir, il fallait un certain nombre de critères. Alors j'ai choisi des gens dont beaucoup sont décédés, parce que ce sont des biographies. Je me suis intéressé à ces personnages hors du commun, qui ont passé leur vie à se battre pour faire triompher quelque chose en quel ils croyaient parce que c'était efficace, parce qu'ils avaient des preuves, et qu'ils se sont battus toute leur vie pour ça. Beaucoup sont décédés, parce que j'ai choisi dans chaque volume, ce sont des gens, c'est sur un siècle, en gros le XXe siècle, et donc, autant que possible dans différents domaines, des gens que j'ai appelés savants maudits, parce que certains d'entre eux, bien qu'ayant été, aient eu leur heure de gloire, ayant eu une grande notoriété, comme par exemple Linus Pauling, qui a été...
Deux fois promoteur de la vitamine C.
Alors, tant qu'il était dans l'orthodoxie, c'était parfait. Quand il a commencé à dire que grâce à la vitamine C, on pouvait stopper le cancer, alors on l'a accusé de tout, il était gâteux, il était bon à jeter à la poubelle, et voilà. Alors, ça, je l'ai mis dans mes savants maudits, parce qu'il est devenu maudit, pas au départ. Et on a ce processus qui se répète très, très souvent. Alors, j'ai voulu, en outre, parce que chacun de ces personnages mérite un livre à lui tout seul, ce sont des vies absolument hors du commun, passionnantes, et j'ai voulu faire dans le premier tome donc 12 personnages, parce que quand on parle aux gens de ces choses-là, ils se disent, bon, bah oui, votre type, c'est peut-être un type formidable, mais enfin, il s'y est mal pris, ou ce qu'il a fait n'est pas valable, ou il n'a pas eu de chance, etc. Si vous en alignez 12, et ensuite 3 fois 12, alors là, le public commence à se dire, il y a un problème social. C'est quand même autre chose. Bon, et parmi eux, donc, je vois que nous avons le livre « Qui a peur de Loïc Leribaud ?» qui est une deuxième édition qui vient de sortir, que Loïc Leribaud vient de sortir lui-même. Son cas est également exemplaire.
Ah, lui, c'est un chercheur exclu.
Ah, complètement exclu.
Parce que, en fait, le chercheur, la différence entre le savant maudit et le chercheur exclu, vous avez commencé à l'expliquer, le savant maudit, c'est quelqu'un qui est reconnu et qui perd cette caution de ses pairs pour des raisons assez claires, d'ailleurs.
Absolument.
Et le chercheur exclu, c'est celui qui ose, alors là, c'est le crime d'entre les crimes, qui ose s'occuper de ce qui ne le regarde pas.
Tout à fait.
Voilà. Donc, Leribaud, qui est un spécialiste de minéralogie, je crois...
Non, c'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué. Ça, je résume très rapidement ce qu'il faut quand même noter, parce que c'est très important, c'est que Loïc Leribaud a été le rénovateur de la police scientifique française. Ce qui est capital.
Il invente des méthodes d'investigation.
Alors, l'exoscopie, il a été l'inventeur de l'exoscopie, qui est en quelque sorte une méthode pour l'utilisation du microscope le plus perfectionné, qui est le microscope électronique à balayage, le MEB. C'est lui qui a été le premier mondialement à être l'expert pour... Il a même servi la DST et il a même eu des prestations demandées par le FBI américain. Ceci pour citer quelques références. Bon. Il a mis au point... Il a proposé d'abord... Alors ça, il faut le souligner. Il a proposé à l'État de créer un laboratoire d'expertise. Ça n'a évidemment pas intéressé l'État. Alors il a créé un laboratoire privé. Ses premiers clients ont été les juges d'instruction, car le juge d'instruction a le droit de nommer ses experts. Enfin, voilà. Bon. Et donc, il a une clientèle, alors c'est extraordinaire, l'État lui avait refusé le laboratoire qui, à titre privé, avait comme client, finalement, des fonctionnaires. C'est extraordinaire. Alors, c'est évidemment très inquiétant, parce qu'il y avait quelque chose qui ridiculisait un petit peu la police dans tout ça. Alors, il a donné des cours gratuits à plus de 1500 juges d'instruction, officiers de gendarmerie, inspecteurs de police, etc. Et que quand l'État a eu, en quelque sorte, dans ses fonctionnaires, suffisamment de gens compétents pour appliquer les techniques de Leribaud, on a stoppé les commandes au laboratoire de Leribaud, qui est tombé en faillite, bien entendu.
Et on lui a piqué son...
Ah bah, en plus, ce qui était assez amusant, c'est que son super microscope, comme son laboratoire a été en faillite, ça a été mis en vente aux enchères, c'est la gendarmerie qui l'a racheté pour une bouchée de pain, c'était vraiment merveilleux.
Quand on vous parliez de hold-up... On est dans un état mafieux, c'est que là, on ne peut pas avoir une plus belle démonstration.
Oui.
C'est quand même extraordinaire.
Alors, comme fort heureusement...
Il est volé par la gendarmerie, chez qui il va porter plainte ce jour-là.
Comme fort heureusement, le Ribot, qui est un homme d'une intelligence exceptionnelle, qui non seulement a des compétences de scientifique, mais est aussi un grand écrivain, je l'estime parce que il écrit fort bien, c'est les livres qu'il écrit sur ses mésaventures scientifiques. C'est un véritable roman, sa vie, et il en fait des livres qui sont tout à fait passionnants. Et donc, c'est une chose, alors, dont ce livre, Qui a peur de Loïc le Ribot, qui résume un petit peu toute cette affaire. Et, ce qu'il faut donc noter, c'est que Loïc le Ribot, pour rebondir, parce que là, il était ruiné, tout simplement, avait, plusieurs années auparavant, découvert le silicium organique, qui est justement dans l'exploration des grains de sable qu'il faisait pour découvrir les traces, etc., puisque le sable conserve tout. Avait, un petit peu par hasard, constaté que ce silicium organique était excellent, notamment pour les maladies de peau, et pour bien d'autres choses, il s'en est rendu compte par la suite. Il a rencontré un peu plus tard Norbert Dufault, qui a été lui alors le premier à utiliser le silicium organique, à le synthétiser et en faire un produit thérapeutique efficace. Ils ont travaillé tous les deux pendant une douzaine d'années pour arriver finalement à ce qu'on appelle le G5, c'est-à-dire un silicium organique qui a l'avantage d'être buvable et qui par conséquent a des effets dans tout l'organisme pour quantité de choses. Ils se sont battus pour obtenir l'autorisation, la fameuse autorisation de mise sur le marché de ce G5. Ils n'ont jamais pu l'obtenir. Et comme le Ribot est un battant et un rebelle, alors il a tout simplement lancé, lui, la fabrication de son G5. Un grand journaliste, malheureusement décédé depuis, Jean-Michel Graille, du journal Sud-Ouest,
qui était un copain,
qui est un homme tout à fait remarquable, que malheureusement j'ai pas eu la chance de rencontrer, mais que j'ai connu à travers ses écrits, tout à fait. Jean-Michel Graille a fait un grand article, a d'abord fait une enquête de 4 mois auprès des patients de Loïc le Ribot, et a fait un grand article dans Sud-Ouest. Alors là, ça a été la ruée vers le produit de le Ribot. Ils ont été débordés. Enfin bon, c'était quelque chose de formidable. Le Ribot a été interviewé, évidemment, dans des radios, des télévisions. Et comme il a aussi, comme tous les découvreurs, un côté naïf, qui est peut-être indispensable d'ailleurs à cette témérité, et parfois cette inconscience de défier les Bastilles, le Ribot a dit, mais parfaitement, j'exerce la médecine illégalement. Je suis un praticien de l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Dans son esprit, il pensait que cette provocation allait obliger les académies, le ministère de la Santé, etc., à examiner de près le produit. Grosse erreur. Ça a été tout le contraire. On s'est empressé de le mettre en prison. Alors voilà quand même un homme qui a fait 6 mois de prison, alors que non seulement il n'a jamais fait tort à qui que ce soit, mais qu'il a au contraire soulagé et guéri quantité de gens.
Accessoirement d'ailleurs, comme selon les bonnes traditions de la République, de la justice républicaine, comme on n'arrivait pas à mettre la main dessus, on a arrêté sa mère, qu'on a interrogé.
Non, on l'a pas arrêté, mais enfin.
On l'a interrogé dans des conditions telles de délicatesse et de bienséance qu'elle est morte quelques jours plus tard.
Ouais. Absolument
morte de peur, quoi, tout simplement. Et de stress.
5 heures d'interrogatoire, une femme de 85 ans.
Voilà.
C'est tout de même dur. Alors, je reviens. Donc ça, l'histoire de le Ribot, bon, nos auditeurs, pour beaucoup, la connaissent, oui, puisque il était dans mon premier volume. Je voudrais revenir un peu donc sur les personnages du troisième volume. Évidemment, je ne peux pas m'étendre, puisqu'il y en a encore 12. Mais justement, je voudrais, comme le temps nous est compté, je voudrais parler quand même de deux qui sont très importants. Un qui a fait aussi de la prison, c'est le docteur Hammer. Et son...
Ils sont presque arrivés à me faire douter. Là.
Non, tout à fait. Mais aucun de ces personnages n'est parfait. Hein. Bien sûr, ils commettent des erreurs, des fautes. Et bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est vrai que moi-même, j'ai hésité à mettre le docteur Hammer dans mon livre. Mais cependant, voilà un homme qui, dont la bonne foi est absolument certaine, et ce qu'il faut montrer qui est quand même très important, vous avez vu dernièrement aux actualités ce prince héritier italien qu'on accuse de toutes sortes de magouilles, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a été accusé de meurtre en 1978 et que la victime de ce meurtre était le fils du docteur Hammer, et que c'est ce drame épouvantable qui a déclenché un cancer chez le docteur Hammer et chez son épouse, qui était également médecin. Et c'est à partir de là que le docteur Hammer a compris une chose que beaucoup de gens savent, parce que malheureusement on le voit parfois dans notre entourage, c'est qu'un grand choc émotif, affectif peut déclencher un cancer. Mais le docteur Hammer a eu un précurseur dont je parle, français, dont je parle dans mon livre, dans le chapitre précédent, c'est le docteur Michel Moirot, qui lui a fait aussi des études très poussées. Alors c'est une démarche très différente de celle du docteur Hammer, elle ne résulte pas d'un choc personnel, mais il a fait des statistiques et des études très poussées pour découvrir qu'il y avait effectivement très souvent une origine psychique, psychologique du cancer et qu'on ne pouvait pas écarter cela. Alors évidemment c'est très dérangeant pour les praticiens de la chimiothérapie, parce que si on leur parle de psychologie, alors évidemment ils sont perdus et puis ça leur casse la baraque, si j'ose dire. Donc il y a là tout, alors c'est pareil, Moirot a été complètement occulté, Hammer lui on l'a mis en prison, alors qu'il y a là une voie de recherche tout à fait capitale.
Mais qui est quand même assez facile à traiter, ne serait-ce que par le secours de la statistique. Si on établit une courbe statistique des événements traumatisants ou stressants dans la vie des individus.
C'est ce qu'a fait Moirot. Voilà. Oui, tout à fait.
On a un résultat.
Oui, tout à fait. Alors donc, j'explique tout ça donc sur ces deux personnages et quelques autres. Bon, on n'a pas le temps d'en parler dans ce troisième tome. Mais une dernière chose quand même que je voudrais dire, qui est quand même très importante, c'est que il faudrait du moins créer quelque chose qui permette une évaluation scientifique de tout cela, qui est complètement occulté.
Voilà. Alors, est-ce que c'est possible?
Et ce serait possible à condition que ceux qui ont des responsabilités au ministère de la Santé et ailleurs veuillent bien s'en préoccuper. Ça ne semble pas être le cas.
Trois minutes.
Merci, Pierre Lance. Alors, le livre est paru chez
Guy Trédaniel. Les trois tomes sont en vente. Le deuxième tome vient d'être épuisé. Il est en cours de réimpression.
Bon. Et j'en recommande chaudement la lecture parce que ce sont des bouquins absolument remarquables. Naturellement des biographies très très intéressantes de gens qui sont de véritables héros de notre temps.
Alors avant les annonces, un témoignage vécu qui peut être utile à nos auditeurs qui doivent comme nous tous voir des pleines pages dans les journaux, des annonces télévisées, des affiches dans les transports en commun pour les ordinateurs Dell, et qui s'émerveillent sans doute de voir que ces ordinateurs sont vendus pratiquement à moitié prix par rapport à leurs concurrents. Alors moi cet été j'ai vécu ce qui se passe après qu'on a cédé, qu'on a cru par exemple que c'est son jour de chance comme le proclame Dell aujourd'hui même dans le gratuit métro, et qu'on a acheté un de ces ordinateurs à moitié prix. Voilà-t-y pas que l'ordinateur est en rideau, plus de son, plus d'image. Alors, sur un Mac, qui est américain comme Dell, hein, Dell est texan, c'est pas de l'anti-américanisme que je fais. Sur un Mac, on redémarre. Là, pas moyen de redémarrer. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche sa documentation et on trouve un numéro de téléphone qu'on appelle la hotline, la ligne chaude. On téléphone. Allô, ici Tunis, j'écoute. Et on passe 2 heures à démonter, qu'on soit littéraire ou plasticien, son ordinateur, mais à le démonter totalement, à ouvrir l'unité centrale, à décrocher la carte mémoire, la connexion ceci, la connexion cela. Il y a 8 prises. Au bout de 2 heures, on vous dit, ah ben, c'est pas tuant, c'est la carte mémoire, c'est la pièce la plus chère. Ah bon? Alors, où est-ce que je vais la chercher? À Montpellier, ça veut dire qu'on y passe 10 jours. Et 10 jours après, on découvre que c'est pas du tout la carte mémoire, et on traîne son unité centrale chez un réparateur.
Qu'on aurait dû faire depuis le début.
Ça, donc 10 jours, on n'a pas pu travailler, et des frais. Bon, voilà, on paye, aux nouvelles surprises, les cartouches d'encre, 44 €. Et ainsi de suite. Alors moi je suis obligé de dire que je déconseille vivement les ordinateurs Dell et même les portables parce que ils ont un petit défaut, et ça c'est pas Goffman qui radote ou le Libre Journal qui est méchant, c'est dans Les Échos, le journal de l'économie, ils prennent feu, et Dell en sera bientôt à 200 ou 300 millions de dommages et intérêts.
Merci Patrick. L'utiliser Mac, c'est Apple,
c'est
formidable.
Il y a que ça de vrai. Demain soir, soupe au cochon devant la gare Montparnasse à partir de 20h. Étant donné l'aggravation promise de la répression, serait peut-être bon d'être nombreux. Samedi prochain, 23 septembre, de 15h à 18h30, Alain Sanders dédicacera Roger Nimier, Hussard bleu et talon rouge, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Et puis nous devons évoquer le colloque national du CEP, ouvert à tous les 23 et 24 septembre prochains, sur le thème « Résister et construire ». qui se tiendra à Chevilly-Larue près de Paris au séminaire d'émission. Accès facile, renseignements et inscriptions 01 39 04 01 35. Et puis au début de l'émission, on avait reçu beaucoup de messages disant je vous salue, enfin les boueurs est de retour, cher Serge. Ou je suis contente pour vous requinquer l'année prochaine, passez à Dieppe, l'air y est très bon. Ou alors la scène s'anime quand il est là. Enfin de Bécatch, c'est fini. Vous avez. Merci de nous avoir recommander le fabuleux bouquin ce soir, L'Apocalypse de Bertrand d'Aquin.
Ah oui, oui, on en reparlera.
Et il y en a beaucoup, beaucoup. Hein.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à mes invités de nous avoir tenu compagnie et de nous avoir éclairés. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 septembre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative.